Et un, et deux, et un, deux, trois.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e Cyclocast. Je suis Warthog et je suis accompagné de
Grincheux
et Prokylus
et Mogor qui est présentement à mi-temps.
Ah bah, elle arrive.
Elle arrive. Planquez-vous, elle arrive. Ça va chier. Et on va commencer par pas de rétropédalage.
Non, non. Je voulais vous parler de passant à Bordeaux, mais c'est pas encore fini, il y a aucun feedback.
Le pont.
Un mois sans la voiture. Alors, il y a le pont de pierre. Ils ont prolongé l'opération de le garder, d'enlever, de couper la circulation automobile sur le pont de pierre à Bordeaux. Ça date, c'était pendant tout l'été. Et ça a été jusqu'à septembre. Et
ah, je crois que c'était définitif, moi.
Non, non. Et ils ont vu, devant le succès de cette opération, ils ont prolongé jusqu'au mois de janvier.
Cool.
Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça a eu du succès. Mais non, je voulais parler de l'opération un mois sans ma voiture, donc qui est en ce moment à Bordeaux.
D'accord.
Mais donc c'est en ce moment, donc on n'a pas de retour. Il y a Paris qui a fait aussi lancé aussi une opération similaire. Je ne sais plus si c'est un mois, trois semaines, deux mois. Le seul reproche que j'ai à faire sur l'opération de Paris, de ce que j'ai vu, c'est que les interviews qu'ils ont diffusées, c'est des gens qui étaient déjà convaincus par le fait de ne pas utiliser leur voiture.
Oui.
Donc c'est des gens qui ne vont pas avoir de mal à se passer de leur voiture. Il y en avait un qui était là. C'était, bah, ça va me permettre de pouvoir tester les différentes solutions qui me sont proposées entre l'allocation de vélo électrique, les abonnements, ceci, cela. Mais c'était quelqu'un qui prenait les transports en commun principalement. Et
oui, donc, bah, de toute façon, c'est sur la base du volontariat. Donc, c'est voilà. Des gens qui alors, se proposent d'eux-mêmes pour ça.
Il faut pas cracher dans la soupe concernant le transport en commun vers le vélo. Parce que ça fait du report indirect. La place qu'il y a en plus dans les transports en commun, elle sera dédiée aux automobilistes.
Et ça rend les transports entre.
Tu veux dire que c'est un cycle ? Quitte la voiture pour prendre le bus, quitte pour prendre le vélo.
Oui, c'est ça, c'est un clou chasse l'autre en fait. Hein.
Il y a un peu de ça.
Okay.
Et puis ça rend les transports en commun plus attractifs, puisqu'il y a moins de monde, donc c'est plus sympa.
Voilà, c'est exactement ça.
Parfait. On va commencer avec des news alors.
Ça, j'en ai plein, mais. Il n'y a que moi. Mogor se présente, donc.
Oui, ce soir, je suis un petit peu indisposé de la voix.
Donc, voilà. Si j'ai bien compris, il n'y a que moi qui ai des news.
C'est ça.
Ouais.
Mais t'en as plein, donc ça...
Alors, j'en ai quelques-unes. Donc, je vais commencer avec une news typiquement lyonnaise et typiquement d'actualité, parce qu'elle date d'hier matin. Donc, hier matin, jeudi 28. Septembre 2017, il y a un poids lourd hors gabarit qui a décidé de malgré tout s'engager dans le tunnel de Fourvière.
Génial.
Ce qui devait arriver arriva. Et ben, en fait, c'était un plateau avec un engin de chantier. Et ben, il s'est accroché sur le plafond du tunnel en défonçant tout au passage.
Ouais, mais il est tout neuf ce tunnel. Il a pas fait gaffe. Ça fait pas longtemps qu'il est là.
Voilà. Enfin, c'est pas faux quand tu dis qu'il est tout neuf, puisqu'il a été refait il y a pas longtemps.
Oui. Tous les ans, il est refait il y a pas longtemps.
Oui, non, enfin,
c'est pour ça qu'il y a un bordel pas possible dans votre rue.
Exactement.
Ah, d'accord.
Depuis deux jours. Et le tunnel est fermé pour une durée indéterminée dans le sens nord-sud.
Youp la boum.
Donc là, pour plusieurs semaines.
Voire plusieurs mois, quoi.
Je pense que vu le.
Ah, vu le trafic, je pense qu'ils vont se bouger le.
Mais c'est, ça, le ça a du bon. Ça donne un aperçu de ce que ça va faire quand...
C'est du bon, parce que tu prends pas le tunnel en voiture.
Ouais, exactement. Moi, je me gosse intérieurement quand j'ai mes collègues qui se plaignent.
Ouais.
Schadenfreude.
Non, mais dans les trucs absurdes, là, on m'a parlé d'une étudiante qui a été une heure en retard sur son cours ce matin de 8h30. Elle arrive de Francheville. Francheville et Cully, il y en a pour 9 km.
Mais surtout, il y a des bus qui font ça.
Oui, mais les bus passent par Gorge de Loup.
Ouais, mais ils prennent pas le tunnel.
Non, mais Gorge de Loup, c'est... ils arrivent dans le bordel.
Ah.
Dans le bordel de, toutes les... de toute la situation.
Et donc, cette étudiante
bah, elle en a pour elle 9 km. Elle a mis 2 heures à 2h30 pour venir en transport en commun.
Elle a peut-être d'autres impératifs. Genre,
Oui, il faut
pas renseigne-toi.
Donc voilà, fin,
elle
combien même elle roulerait une cadence anémique à 10 km/h, elle aurait mis
anémique
moins
de temps. Toi-même. Oh là là.
T'es passé à ça du anémique ta mère, hein, c'est...
Oh là là.
Bref, donc, voilà. C'est le bordel.
Donc c'est le bordel en ce moment dans tout l'ouest lyonnais parce que
oui,
le,
je vois pas en quoi tu trouves ça bien.
Bah,
personnellement, pour avoir circulé cet après-midi au milieu des automobilistes énervés, je trouve ça nul.
Yep.
Complètement nul.
Si, parce qu'ils vont commencer à réfléchir à des itinéraires autres que le tunnel.
Ouais, ils vont prendre des
alors,
bicyclables.
Ça montre ce que nous réserve l'avenir parce que le tunnel, à terme, va être fermé.
Ah, d'accord.
Oui, oui.
Je ne le prends jamais non plus.
D'ici 2 ans... Le tunnel va être fermé avec le déclassement de la 7.
2 ans, je pense que t'es un petit peu ambitieux.
C'est ce qui était annoncé.
Ouais. Avant de reporter tout le trafic actuel du tunnel sans avoir prévu les infrastructures autour dans 2 ans, moi je veux bien me teindre la barbe en prune, hein, mais ça m'étonnerait.
Oh, déjà que Proc va l'atteindre d'une couleur qu'il a annoncée dans un précédent épisode du podcast. Ouais. Réécoutez-les.
Laissez-nous des messages pour la couleur de la barbe. De... Si vous voulez que Proc ait la barbe glitter, tapez 3.
Glitter plutôt crevé.
Ce serait chic, chromé.
Bref, ça veut dire que techniquement on peut rider une moitié du tunnel à vélo ou pas?
Je suis pas sûr qu'on te laisse y accéder.
Surtout si le plafond est en train de tomber.
Oh, je roule vite, moi, ça.
Mais bon, en même temps, le matin, tu peux y aller à vélo, hein. Tu iras plus vite que les bagnoles aussi.
Oui, certes, c'est vrai. Oui.
Oui, j'avais oublié de mettre les jingles sur, sur la première news.
C'est un scandale.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme news toute fraîche du matin? À Strasbourg, ils vont lancer...
Excuse-moi, on t'entend pas, parle dans ton micro.
Donc demain, à Strasbourg, il va y avoir les trophées de l'écomobilité des artisans. Les trophées de l'écomobilité pour récompenser les artisans de Strasbourg.
Ils gagnent quoi?
Tu m'en poses des questions.
Excuse-moi.
En plein essence.
Merde, je suis pas à Strasbourg, sinon j'aurais gagné.
C'est vrai.
T'es pas le seul à être artisan à vélo.
Ouais, mais moi j'ai pas d'assistance électrique.
Quels sont les critères du coup?
Excuse-moi,
je demande des détails.
Est-ce qu'il faut kiffer la choucroute?
Il y a quand même 12 000 euros de récompense.
Ah putain, comment tu serais électrifié si t'avais 12 000 euros de récompense dans la seconde, quoi? Bim.
Alors, comme quoi?
Je suis pas sûr que ce soit 12 000 euros pour le...
À se répartir, peut-être, d'accord. Et quels sont les critères de... Comment on peut participer?
Il faut être strasbourgeois, je crois.
Ça, d'accord.
Oui,
je veux dire,
être
par
artisan aussi.
Et à vélo. Ça fait déjà 3 choses.
Ouais. À part le vélo, t'as 0 critère, donc c'est chaud.
Je ne voulais pas participer, je voulais avoir un peu plus d'informations.
Je n'ai pas les... Il faut déposer un dossier, je n'ai pas les critères de sélection.
Oui, et qui seront récompensés? Ceux qui font plus de kilomètres?
Il y a des Deliveroo à Strasbourg?
Bien sûr.
Ça veut partout. Dire qu'ils pédalent dans la choucroute?
T'as cyclophile, ceci.
Désolé. D'accord, donc on donne du pognon aux gens qui font des trucs à vélo parce qu'ils sont à Strasbourg et qu'ils sont artisans.
C'est bien.
Par contre, Proc, combien il y a de participants?
Non, parce que c'est...
Ça a été annoncé ce matin?
Non, non, le trophée sera demain, donc les candidatures ont été déposées, mais je ne sais pas.
D'accord.
Très bien, à suivre.
Ou j'essaie d'avoir des news à peu près fraîches, ne me demandez pas non plus de les travailler.
Nous, on demande rien.
Alors, t'as parlé de Bordeaux, de Lyon, de Strasbourg. T'as quelque chose sur Paris?
Il passe jamais rien là-bas.
Ouais, non.
S'il se passe quelque chose à Paris, envoyez-nous un message.
Alors, je l'ai pas noté dans mes news, mais après-demain sera inaugurée la piste cyclable des quais de la voie Georges Pompidou.
Après-demain, dimanche 1er octobre. Donc.
Parlons-en.
Journée sans voiture à Paris.
Ouais. Oui. Ah, on avait dit qu'on sert à rien parce qu'il y a pas.
Oui, mais il y a la fête du vélo à Bron. Vous pouvez venir.
C'est vrai.
Ouais.
Mais personne
sait où. Il n'y a pas une journée sans voiture à Paris ?
Si.
Si, c'est dimanche. Dimanche.
C'est dimanche.
Il y a un an, on a dit ouais, il ferme pour Paris, viens, on y va. Voilà. On n'y sera pas.
Voilà.
Spoiler.
On peut encore y aller, mais. Non. Donc voilà, vous vouliez parler du Paris, voilà les news de Paris.
Allez, chiche, Grenoble.
Non, Grenoble, c'est pas aujourd'hui.
Pont-l'Évêque, Pithiviers.
Bah à Grenoble, les métro-vélos, là, ils louent des cargos, ouais. Et ça a l'air de bien se passer.
Oui, mais t'en as déjà parlé le
les métro-vélos, ils ont commencé la rentrée en étant en rade.
Ah bon ?
De vélo. Ils ont...
En rade de vélo, bah, ils n'avaient pas assez ?
Ouais, il y avait une grosse demande de location, plus que les années précédentes. Donc ils ont dû recommander. Donc c'est les bonnes nouvelles en fait.
Bah carrément, ouais.
Voilà. Oui, c'est une news un peu au débeauté, donc je n'ai pas les...
C'est un rétro-pédalage au débeauté.
Mogor, elle rétro-pédale sans ses bottes. C'est fabuleux.
Alors, je ne sais pas exactement d'où vient l'abonnement que j'ai eu à cette newsletter, mais je reçois le torchon numérique de 40 millions d'automobilistes.
Non, mais c'est moi ça, c'est moi qui t'ai abonné.
Quelqu'un non, qui t'aime pas ?
Je pense que c'est la FFMC qui m'a envoyé ça.
Bref.
Qu'est-ce que c'est la FFMC ?
T'as pas envie de le savoir.
La Fédération Française des Motards en Colère.
Tu le sais. Tu devrais pas les sous-estimer parce qu'on va recevoir... Remarque, ils nous écoutent pas, c'est bon. Je
propose qu'on monte le collectif des cyclistes grognons.
On en a gros.
Sire, on en a gros.
Bon, arrêtez de saturer là.
Cet épisode va être...
Saturer, c'est un prénom de canard.
En colère.
Donc je reçois cette newsletter. Alors que Pierrot le fou chasserait et 40 millions d'automobilistes m'ont bloqué sur Twitter.
Ah, moi aussi, c'est
des badges de mérite.
Ouais,
c'est ça, c'est des achievements, ouais.
Wow. Mais ça, c'est les achievements de débutants, parce que c'est quand même facile.
C'est, ouais, je pense.
C'est facile, en fait, il suffit que tu le mettes en face de ses propres contradictions, le mec il te bloque.
Bah ouais.
Non, vous êtes de mauvaise foi, ouais. Bam, bloqué. Ouais.
Mais vous leur parlez, enfin moi je leur parle même pas, c'est pour ça.
Oh si, c'est drôle.
Bah moi, écoute, j'ai pas ton temps, comme on dit.
Mais ouais, non, j'ai plus le temps non plus.
Du coup.
Mais bon, donc dans le dernier mail que j'ai reçu, ils font la retape pour leur site J'ai mal à ma route.
Aïe.
Donc, on constate déjà que la route est à eux. C'est ma route.
Ah, je crois que je sais.
Oui, mais ils ont mal. Bon, ouais. Ils sont pas en colère, au moins.
Est-ce qu'ils mettent des pansements sur la route ?
Alors, c'est un peu l'idée, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le site par lequel ils avaient recensé les routes qui étaient en mauvais état et qui avaient décerné la route la plus pourrie de France à une route qui avait été refaite 6 mois avant.
Mais du coup, ça qu'est-ce qu'il lui reprochait à cette route refaite à neuf
qu'ils n'étaient pas à jour.
Ah.
Voilà.
D'accord.
Mais j'ai vu ça, donc j'ai quand même jeté un petit coup d'œil au site.
Je suis confus.
Et il y a une idée qui m'est venue. On va leur pourrir leur site.
Excuse-moi, stop. Les plans comme ça secrets, faut pas les dire dans
Non, mais.
Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Cortex ?
Emmerder le monde !
C'est simple, dans les catégories de signalement, il y a une catégorie obstacle sur la route.
Oh, on peut signaler les vilains sur les pistes cyclables ?
Exactement !
Ou les livreurs ?
Les livreurs,
enfin, ou les bagnoles de flics ?
Voilà.
Mais qui sont ces gens ? À qui on signale ?
C'est 40 millions d'automobilistes.
Ah, soit qui ne parle pas.
Ah, ça, c'est pas un genre de commande en tour numérique où on peut dénoncer des gens.
En l'occurrence.
Mais calme-toi !
Non, mais on connaît la teneur des gars, quoi. On sait à quoi s'en tenir ces gars-là. On sait qu'ils sont très partisans, mais en soi, leur idée. Ah ouais, carrément. Non,
mais... oui. En plus, moi, je suis. Bah oui, bien sûr.
La fatigue ce soir se fait sentir.
C'est ça, toute la journée, en fait.
Ce vin était bon.
Et ouais, le Saint-Émilion,
il ne mangeait que des fruits.
Ouais. Et mais en soi, l'idée est pas idiote, quoi.
Non, bien.
Oui, enfin, il y a déjà des formulaires dans toutes les villes pour dire qu'il y a des trous dans la route.
Tu vas donc pouvoir déclarer des obstacles et donc après ils font quoi avec ça ? Des articles.
L'idée c'est juste qu'ils arrêtent de perdre du temps avec leur truc et que leur pourrir le.
Non, pas nous, mais.
Eux, pourquoi ils l'ont fait ? C'est pour dire les routes sont pourries, on n'est pas contents, c'est ça ?
Voilà, critiquer l'État qui prend les automobilistes pour des vaches à lait, qui n'entretiennent pas les routes.
C'est vrai.
Je dois reconnaître que c'est peut-être...
Mais du coup, pourquoi ils prennent la bagnole ?
Pardon ?
Non, rien, oui, je...
Je dois avouer que moi, il y a une chose qui m'agace profondément concernant 40 millions d'automobilistes, c'est que leur objectif, c'est de râler. C'est principalement ça, quoi.
C'est qu'on ait le droit de prendre sa voiture, continuer d'avoir le droit de prendre sa voiture comme, non, comme mais, on faisait il y a 40 ans.
Franchement, les gars, vous voulez prendre vos bagnoles, prenez vos bagnoles, il n'y a pas de loi contre ça. Mm. Mais par contre, fermez vos gueules, venez pas nous casser les couilles. Les automobilistes parisiens qui chounent, qui disent « Oui, sur le boulevard Pompidou, à cause de la piste cyclable, il y a les bouchons. » Non, à cause des voitures, il y a des bouchons. Vous êtes dans un bouchon, vous êtes un participant du bouchon. Point.
Ça fait 60 ans qu'il y a des bouchons dans Paris. Les médias parlent des bouchons dans Paris.
Non, mais dans une avalanche, aucun flocon ne se sent concerné.
C'est un peu le même principe. Ouais. Ah, par contre, les cyclistes, quand il y a des bouchons, on appelle ça une masse critique et on est content. Ça n'a rien à voir. Mais...
Ouais, c'est ça.
Donc, ils sont pas contents. Tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui. Alors que les infrastructures sont mal entretenues, c'est un problème. Mmh. Mais
même pour les cyclistes, n'est-ce pas?
C'est un problème pour les cyclistes.
Essayez de le faire avec des caisses mal fixées sur un vélo de 60 kg. Je peux vous dire que là, les rues qui sont mal faites, je les sens passer. Mais bon.
Dans ton popotin.
Donc ils font un site pour chouiner. Il n'y a pas d'autre.
Voilà.
D'accord.
Donc je propose d'aller chouiner sur leur site. Contre les comportements de leur congénère.
Ouais, mais ça va, ils en ont pour 2 minutes, quoi.
Ouais, c'est vrai. Tu le fais pas, toi, maintenant, de mettre au milieu des voies pour bagnole et dire c'est bon, je bosse, on est pour 2 minutes.
Attends, mais j'attends de tomber sur un livreur qui me fasse une remarque pour lui balancer un ah, ça va, je bosse, moi. J'ai tellement envie de le lancer, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme news ? Une triste nouvelle.
Ah.
La fin de la prime au VAE.
Ah oui, j'ai entendu ça hier, oui, en effet.
C'est exact. Déjà, oui. Lyon avait dit stop, on arrête parce que le gouvernement va le faire.
Oui, mais la prime à VAE de 200 euros non cumulable avec les primes régionales avait été lancée au 1er janvier 2017.
Voilà, si et s'arrête au 31 décembre.
31 janvier 2018.
Au 31 janvier, bon, ok, ça ne change pas grand-chose.
Sachant que la prime au véhicule électrique, elle, n'a pas bougé. Elle est toujours de 9 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf.
Non, non, la baissée, elle est passée de 10 à 9 000.
Ah, pardon.
Donc, acheter une voiture électrique neuve...
Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, là?
Non, c'est pas un conseil, c'est une critique des actions.
Sur conseil de nous envoyer de l'argent.
Là, j'ai un article sur le site des villes cyclables, du club des villes cyclables. Qui disent que c'est un contre-signal désastreux sur les questions de mobilité et les volontés du gouvernement. Enfin.
Ouais, plus que ça, je pense que ça montre vraiment qu'à un moment donné, c'est pas tellement un mauvais signal, c'est bien la preuve qu'ils s'en foutent.
Ils s'en contrefoutent.
Il y avait un truc, ça dure un an, bon allez, pas que ça foute, on arrête.
Oui, c'était totalement, comment on dit, populiste. Enfin,
c'était la dernière mesure de Ségolène Royal avant de rendre les clés de son ministère et que...
Oui.
Voilà. Ça ne devait pas représenter grand-chose en termes de budget, c'était plutôt bien accueilli de la part de tout le monde.
Oui, mais puis en plus, de toute façon, les prévisions de marché concernant les VAE, qu'il y ait une prime, qu'il n'y ait pas de prime, elles sont absolument ahurissantes, quoi.
Oui, elles sont ahurissantes, mais si tu veux, pour moi, c'est vraiment
c'est une symbolique.
Le coup de pouce, tu vois, du déclencheur, de dire, putain, je vais mettre 2000 balles dans un vélo, mais...
C'est peut-être pour permettre à ceux qui sont dans des gammes financières un peu plus basses de pouvoir y accéder. Oui.
Pour moi, c'est même plutôt un déclencheur. C'est les gens se disent, tiens, il y a une prime, je vais aller regarder ce que ça me coûterait de passer au vélo électrique.
Parce que
c'est un facilitateur de démarche.
Peut-être, mais déjà, de toute façon, la démarche était très facilitée, puisque sur les prévisions marketing du secteur, on est à peu près à une augmentation de 40% des ventes.
Oui, oui. Bien sûr.
Là, on avait vu les chiffres sur la décennie en cours, ça a explosé littéralement, quoi.
Bah, c'est moins cher que d'autres véhicules motorisés. Non, mais que certains scooters.
Oui, non, mais c'est beaucoup moins cher à l'achat, à l'entretien, à tout ce que tu veux.
Et tout aussi efficace. Quoi.
Et en ville, tout aussi efficace. Mmh. Ouais. On est bien d'accord. Après, il y a toujours des villes qui proposent des primes. Hein. Paris, c'est toujours le cas. À Paris, il y a même une prime pour un achat. C'est cargo et triporteur, même non électrifié.
D'accord.
Et ça, pour le moment, c'est toujours maintenu, de ce que j'en sais.
Regarde la tête de Grincheux, là.
Je le fais domicilier chez mes parents, je suis à Paris.
Vélo neuf. Vélo
donc,
neuf.
On a dit les plans là pour conquérir le monde, tu les dis pas dans le micro, sinon ça marche pas. Grincheux,
je n'ai pas les moyens de me racheter un autre cargo. Et sur les tandems.
Ah, sur les tandems, je sais pas, non.
Parce que j'ai vu que Moustache avait sorti un tandem, VTT électrique.
Pardon ? Enfin, je veux dire, quel usage aurais-tu d'un tandem VTT électrique ?
Je sais pas, mais c'est beau.
Ah, non, c'est pas elle. C'est pas elle.
tu plantes,
mec.
Bien. Et dernière news, un peu plus positif. Vandemoof. Donc là, le constructeur, c'est quoi? C'est danois. C'est danois. C'est
non, il me semble que c'est néerlandais.
Néerlandais. Ont monté une équipe de chasse au vélo volé sur leur vélo hautement connecté, qui sont donc nativement avec des balises GPS et compagnie, des trackers intégrés. Et donc, ils ont des mecs qui vont sillonner le...
Un vélo ?
Non. En général, en bagnole, en avion.
En avion ?
Oui. Bah là, ils ont monté une filière qui les a amenés à Casablanca. Je vous mettrai le
lien. Ils se sont fait voler l'avion, du coup ?
Ouais, non, franchement, le mec, il y allait en caméra cachée, etc. Il était pétoche. Hein.
Ouais.
Il a galéré pour trouver un taxi qui l'amène dans le coin.
Donc, on parle d'une marque qui fait des vélos principalement électriques, c'est ça ?
Non. Non, je crois pas, non. Ils font des vélos plutôt haut de gamme, par contre.
Oui.
C'est...
Je suis sur leur site, effectivement. Voilà. À partir de 1098 euros pour un smart bike, ça s'appelle.
Ouais.
Électrique à partir de 3000 euros.
Bim. Moins 200 si vous l'achetez avant le 31 janvier 2018.
Vandemoof était connu pour un très joli vélo carré,
ouais,
avec éclairage.
Lumière intégrée dans le tube horizontal.
Et l'antivol intégré dans le tube supérieur. Et pour sa directrice.
Et donc,
ils ont une task force.
Ouais. Et donc, je n'ai pas la gueule de l'histoire parce qu'ils n'ont pas... C'est un truc qui date de cet été. Il n'y a pas encore la chute de l'histoire, mais ils sont tombés à Casablanca sur un hangar avec des centaines de vélos.
Pas que des Vandemoof, du coup.
Pas que des Vandemoof, mais quasiment que du haut de gamme.
D'accord.
Et qui arrivaient de toute l'Europe. Donc, a priori, ils ont mis une...
Bon, il y a pareil pour les voitures. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas pareil pour les vélos.
Ah
ben
non,
hein.
Ouais. Voilà, mais ils ont mis la main sur une plaque tournante du recel de vélo. Ils s'en sont sortis.
Bon, on n'a pas de nouvelles des gars, par contre.
Si, ils sont rentrés, mais ils ont eu chaud, très peur.
Ah ouais.
Ils se sont barrés en courant, en se faisant courser par les mecs quand les mecs ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas pour acheter.
D'accord.
Donc voilà. Mais voilà, il y a des marques. Bon, alors après, c'est des marques un peu luxe et qui peuvent mettre en œuvre des trucs pour retrouver les vélos des clients.
Oui, je me doute bien que c'est pas Decathlon qui va chasser les Bitwin à 300 balles.
Voilà.
Et ben même si c'est avec de l'eau, je trinque à la santé des braves.
Du coup, ça veut dire voilà, que le type qui s'est dit je vais voler ce vélo, hop, il a dénoncé toute la filière.
Ah non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont suivi avec le tracker GPS où était le vélo. Et ils ont fini par arriver dans un hangar.
Oui, c'est ce que je dis. Celui qui a volé ce vélo a fait une très mauvaise affaire.
Oui et non, parce que du coup ils savent qu'il y a les trackers. Peut-être que maintenant ils les ont grillés et qu'ils savent les désactiver.
Peut-être.
Encore un plan secret révélé.
En même temps, il suffisait de regarder la plaquette sur le site de Vandemoof.
Oui, c'est vrai.
Oui, bon.
Donc voilà, c'est tout pour mes news.
Merci Grincheux. Proculus a un dossier.
Oui, tout à fait.
De quoi t'allais-nous donc me parler, mon cher Proculus ?
Eh bien... Bicycle. Ah, s'il n'y a pas de jingle, c'est pas un vrai dossier.
S'il n'y a pas de jingle, on n'est pas payé.
Ah, t'es payé, toi ?
Ah bon ?
Merde, encore un plan secret.
Je pense que la plupart des auditeurs sont au courant que, pour ma part, j'ai attaqué une nouvelle activité professionnelle, à savoir que je suis devenu mécanicien cycle. Je suis un petit peu lent dans mon débit de parole ce soir, etc. parce que c'est la fatigue. J'ai fait deux journées aujourd'hui. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je parle de l'entretien du vélo, parce qu'on voit beaucoup de vélos qui nous arrivent, qui sont dans des états déplorables, alors qu'on pourrait globalement bien les améliorer avec assez peu d'efforts. Et du coup, ça permettrait d'avoir des pièces qui durent plus longtemps et des vélos qui seraient entretenables plus régulièrement et de manière plus facilitée.
Et des vélos, voilà, qui te fendent pas le cœur quand tu les suis sur une piste cyclable.
Exactement. Et puis surtout, quand on est mécanicien, on va facturer moins cher parce qu'on aura moins de pièces à changer, parce qu'il y aura moins d'interventions à faire. Voilà. Donc, je pense que je vais pouvoir le faire en deux parties. Je vais faire la première partie ce soir. Puis je pense que le suivant sera pour le numéro.
Après la sieste.
Oui, après la sieste, c'est ça.
Ah, vous faites la sieste, vous.
On va dire que ce soir, c'est pour les débutants. Et puis, pour le numéro 26 ou pour un numéro suivant, ça sera le cours pour confirmer, on va dire.
Il démontra et remontra entièrement un Stormy Archer de 1927, les yeux bandés, une main dans le dos.
Mais moi, je suis même pas capable de le faire.
Ah, dommage, parce que j'avais un petit problème. Et...
T'as pas de Stormy Archer.
J'en ai eu.
Oui.
Oui. Ah ouais, oui, elle est très vieille.
Oula, mais je l'ai peut-être pas connu, le Stormy. Non, voilà.
Non, c'est parce encore... que...
Moi, j'en ai un.
Quelqu'un a laissé mon vélo sur une sortie pompier et... Les pompiers sont arrivés. Et...
Ça vous apprendra à vous garer comme des merdes.
Exactement. Et le vélo a été enroulé autour d'un pot.
Oui.
C'est pas de ma faute, j'ai fait
et
du sport.
Et dans le cyclocast, on lave son linge sale en c'est famille.
Ça. J'ai des photos de ce vélo et du Stormy.
C'était il y a 10 ans.
Je n'ai jamais oublié.
J'étais allé chercher un nouveau vélo en Belgique.
Je pleure encore.
Je sais pas si tu as retenu, mais il disait que Dave aussi a un Stormy Archer.
Non.
Il
a dit qu'il en avait un actuellement.
Dave, le chanteur ?
Non, Dave, mon Hollandais, mon vieux Hollandais.
Ah, pardon.
Ah, c'est pas un Stormy, tu vois ?
Non, c'est un rétropédalage Shimano.
D'accord, ok. Bon, mais bref.
J'ai un vélo anglais.
D'accord, mais tu m'en parleras le après de
ses
en antenne.
Le nombre de ces vélos est...
Tu le connais, mon vélo anglais ?
Ah oui, ton Brompton, c'est vrai.
En fait.
Oui.
Vous envoyez le nombre de vélos qu'il y a Grincheux. Et on fait gagner un vélo de grincheux à celui qui gagne.
Ok, attends, je vais aller compter. Je sais déjà celui que je vais demander.
Si vous faites moins d'1m60, pas la peine de participer, ça sera trop grand.
Voilà. Alors, donc, je vais aborder trois petites parties donc, sur l'entretien général d'un vélo. Il va y avoir le lavage, la chaîne et les pneumatiques.
Tu les laves, toi ?
Bah, il faudrait.
Ah, vous les
Alors,
lavez, vous ?
Pourquoi ?
Bien sûr que je les lave.
Je parle d'abord du... Donc, tard, dans un temps. Premier temps, le lavage. Pourquoi oui. on doit laver un vélo ?
Où, surtout ?
Au Karcher ?
Pourquoi ? Oui, bien
pourquoi
sûr, très bonne idée.
Pourquoi ?
Je vais... Alors, pourquoi ? Un minimum, on doit le décrasser un minimum parce que la saleté, c'est un vecteur d'usure et de corrosion. Comme on le disait hors antenne tout à l'heure, la sueur, ça n'a pas l'air, mais ça, je vous le garantis, je garantis aux auditeurs, c'est une sécrétion qui est très, très corrosive. Ça peut faire cloquer, peinture, vernis, etc.
Parce que vous transpirez, vous ?
Les sportifs. Et puis, en plein été, oui, tu vas dégouliner, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de transpirer en plein été, ouais.
Parce que vous avez de la peinture, vous ?
Le vernis, pas des cadres en alu,
le vernis des cadres carbone craint aussi. Hein. Ensuite, on va aussi faire partie la boue, parce que ça contient du sable, c'est un abrasif. Et puis l'eau, c'est un vecteur d'oxydation. Donc voilà. Et puis la boue, bah, ça retient la flotte, ça va faire
rouiller
l'acier, choses comme ça. Donc, comment ? Alors, j'ai écrit en capital, rien que pour toi, Grincheux. Attention, jamais de haute pression. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, bah attends, c'est complètement con, c'est très bien, nettoyer haute pression, ça fait tout partir. Le problème, c'est que la haute pression, ça fait infiltrer de l'eau dans tous les petits mécanismes, toutes les petites pièces,
toutes
même quand il y a des joints.
Toutes les articulations, tous les...
Ok, ok,
les
roulements. Attendez. Donc, les roulements, du coup, ne parlons pas trop de ça, puisqu'il ne faut pas le faire. Que voilà. faut-il faire ?
Alors...
Se mettre tout nu dans la douche avec le vélo et le frotter langoureusement.
J'explique juste, j'aime bien expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, histoire que les gens comprennent.
Ah.
Donc, l'eau s'infiltre partout, ça oxyde et surtout ça chasse la graisse. La graisse, elle est importante pour éviter que les roulements s'échauffent.
Oui.
Voilà. Donc, si ça s'échauffe, ça casse. Alors, comment on va nettoyer ? On peut simplement prendre une bassine de flotte, on mouille, on frotte avec un chiffon, une éponge, une brosse à dents, un peu de produit vaisselle.
Faites des vidéos et envoyez-les-nous.
Voilà, ouais, du savon de Marseille. Bon, il faut juste penser les produits détergents à les rincer.
Et ne pas se brosser les dents.
Oui, non. C'est la vieille brosse à dents que tu prends pour ton
vélo. Du votre conjoint, c'est pas la vôtre.
Si vous avez un petit jardin, un petit jardinier ou à disposition un tuyau d'arrosage, vous pouvez, mais c'est sans pression et vous évitez d'insister sur les parties qui ont des roulements. Les parties qui ont des roulements, c'est les moyeux des roues, le pédalier, la direction et j'ai fait le tour, globalement.
Oui. Voilà. Faut laver aussi le guidon.
Le guidon, ça dépend. Si t'as les mains dégueulasses, oui, peut-être, mais...
Si tu transpires des mains.
C'est pas tellement pour la transpiration, c'est si t'as de la boue, tu vois. Si t'es aussi soigneux que grincheux quand tu fais du cyclocross ou...
Bah non, mais le cyclocross, c'est salissant par nature.
C'est, voilà, c'est pour ça que j'ai pas nettoyé pour cyclocross.
Là, tu peux nettoyer, parce que je parle bien sûr du vélo urbain, mais je parle aussi quand on fait des sorties, hein, ouais. C'est valable pour
et
tout.
Et pourquoi on peut pas nettoyer directement avec de la graisse?
Mais parce que ça nettoie pas la graisse.
Ça nettoie pas la graisse. Et puis surtout, ça va pas faire partir. C'est pas un solvant.
Est-ce que tu te laves avec du beurre, toi?
Absolument. Parfaitement, c'est monsieur.
C'est pas un solvant, donc ça va pas faire partir les impuretés, la boue, les choses comme ça. Ça va juste se coller par-dessus. L'eau, c'est bête, mais c'est le solvant par excellence. Hein. C'est un solvant chimique naturel. Voilà.
Du coup, t'as déjà essayé de mettre le Brompton au lave-vaisselle, Grincheux?
Plié, ça doit rentrer.
Ouais, je pense, hein.
Je croyais qu'il n'y avait pas de haute pression.
C'est pas haute pression de la vaisselle.
Non, à cause de la selle en cuir.
J'ai expliqué.
Enlève la selle.
J'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué comment. Maintenant, la question, c'est quand. Quand il est vraiment dégueulasse, cracra, bon ben voilà, on le nettoie.
Comment on le voit qu'il est vraiment dégueulasse?
Les gens te huent dans la rue. Tu vois plus la couleur.
Je t'enverrai une photo du bullet.
Voilà, tu vois plus la couleur. Tu dis tiens, il est joli ton vélo marron.
Alors, excuse-moi, j'ai un vélo que j'ai acheté il y a assez longtemps que je n'ai jamais nettoyé.
Alors attends.
Du coup, je me demande.
Je te dis, quand il est très sale, là c'est pour les VTT.
Je l'ai acheté genre il y a 8 ans.
Les cyclocross, etc. Sinon, on le conseille tous les 6 mois. Pourquoi ? Parce que, je t'explique, une fois en mars et une fois en septembre. Parce qu'en mars.
Ça repart.
Voilà, non.
On est en septembre.
Tu dois te débarrasser des traces de sel qui ont été répandues pour la neige, le verglas, etc. durant l'hiver. Et une fois en septembre, parce que si tu es au bord de la mer, t'as pu te prendre du sel pour les embruns. Toi, c'est pas ton cas, mais voilà.
Il
y a la poussière, il y a la boue, des choses comme ça. Alors, si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Bah, simplement, tu vas avoir des pièces qui vont s'user plus vite. La transmission en tête. Simplement. Tu vas aussi rayer ta peinture. Sur les cadres aluminium, c'est pas un gros problème de rayer la peinture.
Moches.
J'ai pas un cadre
parce qu'ils sont déjà moches.
Ouais, voilà. Mais surtout, ça va être un problème sur les cadres acier. Parce que les cadres acier, si tu fais partir la peinture, potentiellement, c'est l'acier qui s'oxyde. Voilà. On dit souvent que l'aluminium est
inoxydable.
Oui, ok, c'est bon, ça va, on a saisi. Non, mais on dit souvent que l'aluminium ne se corrode pas, donc que ça a une grande longévité, etc. Il y a une chose dont on entend moins parler, par contre, c'est que l'aluminium craint un type de corrosion. Je viens d'en parler, c'est la corrosion au sel. Si vous vous dites, ouais, moi j'ai un cadre aluminium, je m'en tape, c'est bon.
Je roule dans la mer.
Je peux rouler. Ouais. C'est ça, je suis au bord de la mer ou je suis à la montagne et il se prend du sel à longueur d'année, ça va pas bousiller que la chaîne, ça peut bousiller le cadre. Voilà, donc vous êtes prévenus. Pour ça que moi je conseille un petit lavage. Alors après, c'est des conseils dans l'absolu. Très souvent, on les suit pas et je vais être honnête.
Et là,
moi,
il me regarde.
Ouais, parce que tu disais, je l'ai jamais lavé le mien.
Alors en vérité, je l'ai déjà emmené souvent chez mon bouclard. Il avait pas tout à fait la même tête, je soupçonne qu'il l'avait lavé parce qu'il devait avoir pitié, ça devait leur
non,
faire mal.
Non, c'est parce que s'il bosse sur un vélo sale, il se dégueulasse lui-même, donc il le lave avant.
Ah, je sais pas, mais...
Ça veut dire qu'il est sympa, parce
ouais,
que...
Carrément, ouais.
Non, c'est que ton vélo est pas très très sale, parce que un vélo très dégueulasse, soit
ton
tu dis au client...
Ton bouclard te le refuse.
Alors, ton bouclard te dit soit tu vas le nettoyer, tu me le ramènes, ou alors il te le nettoie, mais il te facture le nettoyage.
Ouais. J'ai jamais regardé le détail de la facture. Voilà.
Donc... Une fois qu'on fait attention au lavage de son vélo, ça c'est le béaba, bon, on va voir la chaîne. Alors, en cours de mécanique, la chaîne, on a surnommé ça le cœur du vélo. C'est une pièce essentielle. Elle transmet l'énergie des jambes vers le reste de la machine.
Ah, c'est ça.
Elle encaisse des contraintes énormes. Elle encaisse le poids du cycliste, du chargement, tout. Donc, bah, pour vivre vieux, faut prendre soin
vivons
de son cœur.
Non, vivons graissé. Oui.
Ah, pardon. Huilé.
Voilà. Alors, attends. Déjà, il faut commencer par la...
Ne pas manger trop gras.
Voilà. Trop salé, trop sucré. Bon, le sel, on a vu.
Le gras, ça arrive.
Alors, avant de l'huiler...
Kouyaman au beurre salé.
Alors, avant de l'huiler... Avant de l'huiler, il faut commencer par la nettoyer.
Encore ?
Ben oui, c'est plus spécifiquement parce que c'est pas en brossant que tu vas forcément nettoyer la chaîne, tu vas plutôt nettoyer le cadre, les choses comme ça. Là, je parle de nettoyer spécifiquement la chaîne. Si tu l'as fait durant le nettoyage, c'est bien, mais comme je disais, le lavage, c'est tous les 6 mois. La chaîne, ça serait bien de la nettoyer tous les mois, tu vois.
Moi, je la fais tous les 2 semaines, rapide. Personnellement.
Toi, tu l'as fait
tous les
2 semaines.
Tous les mois
sur deux lits, toutes les 2 semaines.
Putain, et qui nettoie ma chaîne?
Moi, je la casse.
Pas. C'est juste que si tu la nettoies pas, ta chaîne, elle va faire 3000 bornes au lieu de 6000.
Voilà, c'est ça.
Ah, je comprends mieux, parce qu'en fait, la dernière fois, effectivement, Grincheux m'a emprunté un vélo, il a cassé la chaîne. Donc, du coup, elle est assez propre. Mmh. Il l'a changé.
Alors, comment on nettoie une chaîne? Donc, vous avez trouvé des petites boîtes qu'on fixe sur la chape, c'est-à-dire le bras du dérailleur.
Astucieux.
On le fixe avec des petites brossettes, on met un produit nettoyant dedans, du savon, produit vaisselle, puis on tourne. Bon, perso, mais...
Moi j'en ai une, ça fuit, je m'en mets partout.
Voilà.
je déteste le machin.
Et si on n'a pas de dérailleur?
Et à la fin, tu t'es mis à la main parce que c'est quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça.
Et ben.
Titre.
Si on n'a pas de dérailleur, et ben on passe directement à la méthode suivante. Ah. Moi, je suis pour la méthode à l'ancienne. Une vieille brosse à dents.
Encore la même? Ouais. Oui, la même ou une autre?
Non, une autre. Parce que sinon, après, quand tu vas t'en servir pour les petites pièces...
Tu vas étaler le cambouis.
Tu vas étaler le cambouis,
c'est donc ça. Donc deux conjoints.
Donc
deux brosses à dents. Tu brosses contre brosse
ou
tu scotches.
Voilà.
Attendez, on va trop vite, là. Ta deuxième vieille brosse à dents, tu la mets où?
Alors...
tu veux vraiment...
Dans ta chaîne.
T'as une petite boîte, genre entretien de base du vélo, et t'as des brosses à dents.
Non, quand tu nettoies.
Ah,
tu frottes la chaîne.
Tu frottes la chaîne avec.
Si t'as pas compris, ça te fait penser à une corvette chiotte de l'armée où tu dois récurer des chiottes avec une brosse à dents.
Ok, soyons spécifiques. La chaîne, elle a au moins 2 phases, voire 4.
Ouais.
C'est les 4 que tu fais.
Voilà, c'était. Non, mais on parle de débutant. Et... Moi, j'ai jamais nettoyé ma chaîne de ma vie, quoi.
Et oui, parce que
sur le dérailleur, tu nettoies les galets aussi.
Ouais. Oui, alors,
attends, on en
est pas là.
J'ai pas
de
dérailleur.
Je parle de la chaîne d'abord.
Est-ce que je peux faire le même système, c'est-à-dire fixer ma brosse à dents sur le bras de je sais pas quoi et tourner la chaîne?
C'est exactement ce que je te conseille. Ouais.
Ah.
Tu mets en fait la tête de la brosse sur le pignon à l'arrière. Tu fais tourner à l'envers ta chaîne, comme ça au moins ça
passe partout.
Ça fait passer la chaîne dans les poils de la brosse à dents. Avec un peu de produit de détergent à la con, savon, produit vaisselle. Et bien sûr, après, il faut là aussi rincer. Tu fais le dessus, le dessous et les côtés.
Comme les dents.
Tout, voilà, partout.
Exactement. Non, tu fais pas le dessous dans les dents.
Tu fais toutes les faces, quoi.
On peut penser à nettoyer le ou les pignons. Et effectivement, si on a un dérailleur, c'est très intéressant d'en profiter pour nettoyer les galets. Les galets, ce sont les petites roulettes dentées qu'il y a dans la chape du dérailleur, dans lesquelles passe la chaîne. Voilà.
Et sur lesquels se colle, s'agglutine la
merde.
Qu'on appelle aussi les ramasse-merde.
Et alors, il faut savoir que les galets, moi, il m'est déjà arrivé de prendre le manche.
Ouais. Absolument obscène.
Ouais. De prendre le manche de la brosse à dents, qui sont généralement. Les manches sont pointues, tu vois, pour aller casser la couche de saloperie des galets, tu vois.
La croûte.
Moi, je l'ai fait au tournevis. Ouais.
Hein?
Au tournevis.
Oh, au tournevis, à la clé Allen, ouais, on est.
Ah ouais, non, mais là, on arrive sur des niveaux de crasse qui sont quand même.
Mais du coup.
Ça, c'est pas fait tous les mois.
Il y a des gens
qui.
Cette cascade est faite par des professionnels.
Quand tu vas acheter de l'essence, tu peux nettoyer ta bagnole. Il y a pas un endroit où tu peux nettoyer ton vélo là?
Au recycleur.
Dans les ateliers d'autoréparation?
Dans l'autoréparation, si c'est possible, tu vas trouver une baignoire où tu peux le faire. Ouais. Ce qu'on appelle une baignoire, c'est un grand bac.
Ma question est sincère. Hein,
Au recycleur,
si
c'est
pas
tout
trois
au fond.
Brosses à dents, quoi.
Au recycleur, c'est tout au fond à droite, avant le couloir qui mène aux toilettes. Désolé pour le. Voilà. Et oui, t'as un petit bac où on nettoie les vélos. Ouais.
Bon, alors personnellement, je n'ai pas de brosse à dents, j'ai une brosse à chiottes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ou pas?
Ça dépend de la taille de ta chaîne. Faut une grosse chaîne.
Pardon?
Il faut des grosses chaînes avec des brosses à chiottes, parce que c'est des grosses brosses.
Ouais.
Donc,
grand vélo.
Une fois qu'on a bien nettoyé tout ça, ce qu'on peut utiliser comme dégraissant aussi, c'est du gazole. C'est un très très bon dégraissant.
Alors personnellement, je n'utilise pas de brosse à dents. Moi, j'ai un maillon rapide. Je détache ma chaîne, je la fous dans un petit bocal de confiture bonne maman à la fraise avec un petit peu d'essence au fond. Je secoue, je laisse reposer, je ressors la chaîne. Elle est nickel.
Ça, c'est la méthode avancée. Tu as même encore mieux, c'est de prendre ta chaîne. Alors, c'est de la tremper dans de l'huile de vaseline. C'est l'huile avec. Ça suffit, Roger. Tu la trempes dans l'huile de vaseline. L'huile de vaseline va venir dissoudre les paquets de graisse. Tu la laisses une nuit et tout va se déposer au fond. Tu la ressors, elle est nickel.
Okay.
Et même mieux, je connaissais des bourrins qui avaient récupéré un vieux lave-vaisselle dans un atelier. Ils prenaient les chaînes dedans. Ils faisaient tourner. Ils disaient, les chaînes sont nickel. Par contre,
le lave-vaisselle est dégueulasse. Tu m'étonnes.
Voilà, des gros dégueux. Ah,
ça n'est pas la méthode économique.
Du tout.
Ça coûte cher, la vaisselle.
Ça, voilà, mais... Par contre, il paraît qu'elles étaient très belles.
Ah, bah, tu m'étonnes. Comme voilà. Neuf.
Ah, mais c'est pour ça, les Parisiens, ils ont toujours des choses à transporter. Ils ne peuvent pas prendre de leur vélo.
Ah, tu crois, c'est parce qu'ils transportent de la vaisselle.
Tout
ah,
ça. C'est ça. Et du coup, il faut rincer au vinaigre, comme pour le lave-vaisselle ou pas?
Non, par contre, tu rinces à l'eau claire. Et surtout, une fois qu'elle est nettoyée, remontée, tout ça, si vous l'avez démontée ou autre, il faut l'huiler. Et attention, j'insiste, on huile.
Est-ce qu'on laisse sécher la chaîne avant, vu qu'on l'a rincée?
On va même la sécher avec un chiffon. Remarque judicieuse. Ouais,
excusez-moi, mais bon.
On évite de laisser de l'eau dessus. Oui,
sinon, tu as raison,
ça la fait rouiller, oui. Tu as raison. Oui. Non, c'est une très bonne remarque.
Parce que le lave-vaisselle, il sèche. Du coup, c'est assez bien.
La vaisselle, ça sèche? J'en ai pas, moi. Ouais, j'en ai pas, je sais pas passer.
Je t'inviterai, tu testeras mon lave-vaisselle. Tu verras, ouais. Ça ressort sec, la vaisselle.
J'ai très envie de voir ton gros lave-vaisselle.
Il est tout petit, mon lave-vaisselle.
Alors, j'insiste, on huile une chaîne, on ne la graisse pas. Surtout, ne graissez pas votre chaîne. Je sais que les motards... Alors, si je dis pas de bêtises, là, c'est Grincheux qui me corrigera. Les motards graissent leur chaîne.
Seulement ceux en colère.
En général, oui, ça dépend après de.
Ça dépasse.
Je sais que souvent, les motos, il y a un système prévu souvent sur les chaînes où il y a de la graisse dans les maillons, enfin à l'intérieur des machins.
Ouais, les maillons sont graissés d'usine ouais. Mais on remet de la graisse dessus.
Oui, non, mais voilà, mais
alors
ça
pourquoi
mais du coup, ça, c'est,
et on fait pas ça pour les vélos.
Pourquoi ?
Je pensais pas.
Je vais donc l'expliquer, ça c'est important que vous
compreniez.
Est-ce
qu'il faut une brosse à dents supplémentaire ?
Non. Deux, ça suffit. Ça suffit, là, hein. T'arrêtes de te moquer.
Donc, non, mais l'huile... je vais pas foutre de l'huile avec mes doigts sur ma chaîne, quoi.
Non, mais en fait, tu fais tomber des petites gouttes en faisant tourner ta chaîne à l'envers.
Tu
as
une burette.
Tu pédales à l'envers avec ton pédalier, ça fait tourner ta chaîne en arrière, tu mets des petites gouttes et ça huile...
Tu mets des petites gouttes toujours au même endroit, parce que là, tu n'as pas fait le même geste.
Titre.
Alors,
pourquoi on met de l'huile sur un vélo et qu'on met mettre de la graisse sur une moto, c'est parce que la chaîne d'une moto, ça va très vite. Et du coup, avec l'échauffement, le frottement, la graisse va s'échauffer et va se liquéfier. Donc du coup, ça sera liquide. Comme on va pas aussi vite à vélo qu'une moto.
Ah bon?
Sauf chez Lance Armstrong, mais lui en fait, il tourne au kérosène le matin.
Attention, il parle de Vmax, il parle pas de vitesse moyenne.
Ah.
L'huile, si on mettait de la graisse sur la chaîne, ça resterait de la graisse. Du coup, ça agglomérerait toutes les saloperies. Donc, du coup, on met de l'huile. Et le must, ça reste ce qu'on appelle l'huile de paraffine. L'huile de vaseline. C'est un corps gras très très fluide et ça va pénétrer dans les petites blagues, dans les rouleaux, dans les maillons de la chaîne.
Question de débutant.
Ouais.
Où est-ce que j'achète de l'huile de vaseline?
N'importe quelle crèmerie, quoi. C'est...
Alors, excuse-moi, j'étais à la crèmerie, il n'avait que de la crème, du beurre, du lait.
Décathlon.
Merci.
Décathlon, magasin de vélo lambda. Là, vous pouvez pas vous tromper. Vous prenez de l'huile de chêne. C'est bon, il y a pas de
je préfère poser la question.
Si vous voulez vraiment. Mais t'as raison, c'est toi qui dis.
Vaisselle pour nettoyer la chaîne, tu trouves facile.
Tu trouves. Après, il y a certains produits un peu spécialisés. J'ai jamais essayé on en parlait tout à l'heure, du Squirt de chez Planet X. J'en ai entendu que du bien. Oui, ça fait rire, oui. Le Squirt de
Planet X. Oui, alors là, c'est pas de l'huile de paraffine, c'est de la cyprine de licorne en fait. Ça n'a rien à voir.
Est-ce que du coup, ton vélo va voler?
Non, mais il te provoque des orgasmes.
Non.
Beaucoup plus intéressant.
Dès que tu dépasses les 30 km/h, ta roue éjecte des paillettes d'air, toi.
Franchement, j'achète.
J'ai un dérivé. C'est pas la marque Squirt, mais c'est un produit équivalent. Et en effet, ça marche très bien.
Et bien, le cash, je testerai bien.
Surtout en condition.
Les commerciaux vont te vendre une transmission plus fluide, donc quelques pourcents de gagnés.
Non, c'est pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'en condition humide hivernale, la lubrification dure plus longtemps. Je constaterai en performance parce que je suis pas performant.
Les intempéries font perdre de l'huile de la chaîne.
Exactement, la chaîne reste propre plus longtemps.
Après un gros orage, ça veut dire qu'il faut que je rehuile ?
Si tu es sous la flotte et que t'as roulé pendant 10
bornes,
ouais.
Je parle pas de l'orage, j'étais chez moi.
Merde, il pleut, faut que je vienne t'aller.
T'as un garage, t'arrêtes de te chez moi.
C'est vous qui êtes un peu idiot quand même.
Ah non, mais
non, mais si je me prends une grosse averse sur la tronche, à partir de quand je me dis, ah, faut que je remette, ou plutôt, quel est le moment où je me dis, faudrait que je huile ma chaîne, à
si
part,
ton vélo, c'est, si t'as pas de carter de chaîne, que tu t'es pris une grosse radée en avoir le slip mouillé, avec le kawaii, là, ouais, tu peux. Sinon, tu le fais une fois par mois, ça fera l'affaire. Voilà.
Ouais, ça fait flipper, hein, une fois par mois et tout machin. Avec l'expérience, ça prend 5 minutes, hein. Vraiment. Hein.
Ah oui, non, c'est trop fort rien, ouais.
Oui, on détaille toutes les étapes pour bien expliquer.
Voilà.
À quoi ça sert,
sur
ça.
Le vélo.
Consommer d'accord.
Un coup de chiffon, un petit coup d'huile.
Le nettoyage de chaîne, taf, hein. Si vous le faites tous les mois, le premier nettoyage, ça va être l'enfer, il va falloir tout décrasser, etc. Mais si après on le fait une fois par mois, le nettoyage est très rapide. On est bien d'accord.
Ah oui, si je commence avec ma chaîne complètement dégoûtante maintenant.
Bah ça dépend, elle a combien de bornes techniquement ta chaîne ?
J'en sais rien, j'ai pas de compteur.
Et alors ?
Bon, un petit plus. Non,
mais
qui
que
est pas...
Est-ce que je dois. Alors, j'ai une question. Si ma chaîne elle est super crado, je dois nettoyer plusieurs fois de suite ?
Non, mais tu l'as fait une bonne fois pour toutes, jusqu'à ce qu'elle brille.
Ah.
Et après, tu la nettoies une fois par mois.
Ah,
elle sera
quand
pas
elle brille.
Toute crado si tu l'as fait une fois par mois.
Non, c'est quand elle brille.
Voilà. Bah, faut que tu revoies le métal, quoi. C'est...
Quand
voilà.
Tu te vois dedans, c'est que c'est bon.
Très bien. Vous rigolez, mais n'empêche. Ouais, enfin. Est-ce quand on te montre, c'est plus facile, mais audio, c'est faut décrire. Quoi.
Et il n'y a pas de question idiote, tu as raison d'intervenir, j'apprécie.
Peut-être qu'un jour je le ferai, quand j'aurai rien à faire. Donc.
C'est vraiment pas compliqué.
On fera un tuto du coup le jour où tu le fais.
Voilà.
Je mettrai une tenue de licorne.
Ouais.
Petit plus, c'est facultatif, mais ça peut être intéressant. Entre nettoyage et graissage, on peut tester l'étirement de la chaîne. Alors, il y a des petits outils... avec un crochet d'un côté et un petit témoin de l'autre. On passe le crochet dans la chaîne et le témoin, c'est une espèce de gabarit en fait si vous voulez, hein, doit bloquer sur la face opposée d'un autre rouleau. Généralement, voilà, Grincheux est en train de sortir le sien, voilà, ça ressemble
à ça.
Il
est un peu
en
sous plastique, donc on entend.
Pour ceux qui ont la couleur.
Bon, vraiment, ça ressemble à un décapsuleur.
C'est ce que j'allais dire, ça ressemble à un décapsuleur, mais ne vous trompez pas.
Ah, tout simplement, c'est un truc quoi, qu'on cale dans un maillon, ça doit tomber pile dans l'autre trou.
Non.
Comment ça, non ?
Ça doit rester bloqué sur le rouleau. Si ça,
si ça tombe
dans le
trou, c'est que c'est trop grand.
C'est que c'est trop grand. Si ça tombe en frottant un peu, hein ?
Changer la chaîne.
Que faire en ce cas si ça tombe pas au bon endroit ?
Eh ben, ça veut dire que c'est le temps de changer la chaîne et la cassette. Ah. Et on change les deux en même temps.
Ça m'inquiète beaucoup, ces histoires. Je me dis que je roule.
Voilà, alors, j'ai fait un petit clin d'œil à Grincheux. Ceux qui n'ont pas la couleur n'ont pas pu voir. parce qu'en fait, une fois, il m'appelle, il me dit, je comprends pas, j'ai ma chaîne qui craque. Je lui dis, t'as changé ta chaîne. Ouais, t'as pas changé la cassette. Non, ben, c'est normal. Parce qu'en fait, la chaîne et la cassette s'usent en même temps. Et c'est bête. Mais en mettant une chaîne neuve sur une cassette usée, il arrive parfois que ça craque plus qu'avec la chaîne usée.
C'est quoi une cassette ?
La cassette, c'est l'ensemble des pignons que tu as sur la roue arrière.
C'était la partie débutant. Ouais. Les autres, ils font style, ils connaissent tout, ils posent jamais de questions parce qu'ils...
Non, mais c'est bien, voilà, c'est bien. Non, mais
je fais...
Très sincèrement, j'apprécie. C'est
deux, voire idée. Trois chaînes par cassette. Hein.
C'est une possibilité.
Mais je nettoie souvent ma chaîne.
Voilà, et puis tu attends que... Tu attends pas que ta chaîne soit complètement morte.
Non, j'ai un nombre de kilomètres où je... Ayant déjà pété une chaîne, en trois morceaux,
soit
en
la chaîne
le matin, ça m'a saoulé. Donc
soit la chaîne,
c'est quoi ton kilométrage environ où tu te dis tiens, je la change ?
Une chaîne, c'est 5000 bornes.
C'est une vraie question.
C'est quand. Alors, 5000 bornes, c'est quand tu es soigneux. Quand tu passes les vitesses comme un gros bourrin comme moi, c'est plus 4000.
5000 bornes, c'est.
Ça dépend aussi de ça dépend aussi ce que tu trimbales.
Ouais.
Quand tu es sûr. Non, mais.
T'es un peu maigrichon.
T'es tout seul sur ton petit vélo.
Mon vélo n'est pas petit. C'est à ma taille, ça n'a rien à voir.
C'est ta taille.
Allez, hop.
Mais quand t'es sur un cargo avec 50% du temps avec 2 gamins dessus.
Ah bah oui, non mais tout de suite, mais bon.
Alors il y a effectivement le poids, puis il y a aussi le matériel. Les chaînes Durace sur les vélos de route, donc c'est Durace, là, une cassette de pignon, Durace c'est 250€.
C'est la marque.
C'est 250 km aussi. Après,
c'est pas que la marque, il y a aussi la qualité du matériel. Donc une cassette Durace, c'est 250€. Du coup, les mecs, quand ils ont besoin de le changer, ils changent la chaîne et la cassette d'un coup, mais c'est qu'au bout de 9000. Heureusement. Voilà.
Ok, c'était pour avoir des indicateurs chiffrés.
Ça fait vraiment 9000 bornes, Durace ?
Durace, tu peux le faire tirer jusqu'à 9000 bornes, ouais. Par contre, tu changes les deux d'un coup.
Ouais, 250 balles, non merci. Hein. J'ai des chaînes à 15€, c'est bien assez.
250, c'est que la cassette, c'est pas la chaîne. Elle est à 40 ou 50 balles.
Alors si j'ai jamais nettoyé ma chaîne, je vais te dire, je vais pas mettre 250€ là-dedans.
Non, mais t'as pas de Durace.
Déjà, il va falloir que je trouve une burette d'huile de vaseline. Autant te dire que voilà.
Tu ouvres la servante.
Toi, ta cassette, elle fait 20-30€, c'est un truc comme ça, quoi.
Ah oui,
là, j'étais en train de te parler de la Rolls des cassettes, quoi.
Oui, aucun intérêt pour un débutant qui veut nettoyer sa
DVD.
Chaîne.
Mais moi, je suis pas en Durace.
Un roll-off ?
La Rolls des cassettes, c'est pas un DVD ?
C'est pas un Blu-ray ?
C'est naze.
Pas un Blu-ray ?
Non, c'est le flac.
Je veux un punch pour lui. Voilà.
Désolé.
Donc, et c'est d'ailleurs pour ça, tu disais, alors, soit il y en a qui changent la chaîne dès qu'elle est un peu usée et qui changent la cassette que toutes les 2-3 chaînes. Ça, c'est dès que la chaîne, le premier témoin indique que la chaîne commence à être usée. Sur les testeurs,
il parle de l'étirement de chaîne, là.
C'est ça, c'est l'étirement de chaîne.
Il est en train d'étirer une chaîne.
Et c'est parce qu'ils n'ont pas la couleur, c'est pour ça.
Bah oui, il faut tout expliquer. Hein.
Donc, le témoin, il y a deux témoins sur le testeur. Il y a un témoin qui dit chaîne un peu usée et chaîne complètement morte. Si vous voulez.
Non, il y a un témoin qui dit changer la chaîne, l'autre qui dit changer la chaîne et la cassette.
Voilà, c'est ça. Et l'autre c'est très bien traduit, c'est ça.
Et l'autre qui dit vous devriez déjà être mort.
Voilà, c'est. Putain, change ta chaîne.
Ne montez pas sur cet engin du diable.
Donc, le testeur, c'est pas un objet courant, vous n'allez pas le trouver dans tous les magasins, mais ça se trouve sur internet. Et surtout.
Coûte rien.
Ouais. Ça dépend lesquels.
Oui.
Roll-off, c'est 50€. Mais bon.
Personne ne commercialise un kit. Non. Nettoie et change ta chaîne avec un testeur, une burette d'huile, 3 brosses à dents.
Ouais, si, je suis sûr que ça existe. Ouais. Mais je suis sûr que ça existe.
Et qui te l'envoie tous les ans parce que bon, tes brosses à dents, elles doivent être un peu usées.
En France, non. Peut-être que les Allemands et les Néerlandais ont ça. Ouais.
Ah oui.
Ouais.
Les testeurs. Le ministère du changement de chaîne, les Allemands, non
hein
un carré, bien.
Alors.
Tous les mois. Il y a la cérémonie.
Ça existe à tous les prix, mais globalement. Les testeurs à 10-15€, ça va largement bien.
Note que si tu es quelqu'un qui a des menstruations, c'est assez pratique, du coup. Chaque fois que tu as tes règles, hop, tu laves
ta chaîne.
Ça te détend.
Ouais. Sauf si t'es fatigué, tu le fais une fois que c'est terminé. Peut-être, si t'es
fatigué. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un bon
temporel.
Ouais. Sinon, vous pouvez viser la pleine lune. Si votre chaîne est poilue, éloignez-vous.
Moi, c'est le premier du mois, quoi. Voilà.
Ah, c'est bientôt.
Voilà. Quand le faire la chaîne, une fois par mois, c'est pas mal. Si vous sortez beaucoup, genre 40 km par jour en cumulé vélo-taf, avec une transmission externe, donc c'est-à-dire avec une cassette et des dérailleurs, que vous faites de la livraison, etc., on peut le faire tous les 15 jours, voire toutes les semaines. C'est en fonction de la fréquence. Plus on va faire de kilomètres, plus on va l'user prématurément, c'est logique. Si on a une transmission interne, c'est-à-dire un moyeu à vitesse sans dérailleur, les chaînes s'usent beaucoup moins vite. Une chaîne de moyeu à vitesse type Alpine, Nexus, Roll-Off, ça peut facilement faire 10 000 km. Ouais, 10 000.
1000.
1000. Voilà, non. Donc ça c'est la chaîne. Donc là on a fait les deux tiers du taf. Dernière chose.
Juste une petite anecdote, un petit truc. En moto, j'ai eu plusieurs fois un truc qui s'appelait le Scott Oiler. Donc, c'est un graisseur automatique de chaîne. Et à ce moment-là, donc tu mets plus de graisse sur ta chaîne, mais tu as de l'huile qui, commandée par le fonctionnement du moteur, fait un goutte à goutte sur ta chaîne pour graisser en permanence sa chaîne.
Comme dans certaines tronçonneuses.
Un peu.
D'accord.
Et
si
d'ailleurs, Scott Taylor avait fait
nettoyer la chaîne également.
Alors, l'huile de tronçonneuse marche très bien sur les transmissions de vélo, hein, pour
non.
y aller.
Elle poisse. Moi, ce qui est moins cher, c'est l'huile de boîte de vitesse automatique. De boîte de vitesse pour boîte automatique.
Alors autant des fois je me sers d'une tronçonneuse, autant des boîtes de vitesse automatique, ça m'arrive jamais.
Ouais, mais tu les trouves en supermarché, c'est...
L'huile de tronçonneuse aussi.
Mais bon. Et donc Scott Euler avait fait un crowdfunding pour proposer un modèle pour vélo, et puis ils n'ont pas atteint, leur objectif. Mais bon, c'était très haut.
Ça ferait un super nom de groupe de rock. Scott Oiler.
Ouais, mais bon, c'est déjà déposé.
D'accord. Alors, dernier point. On a parlé du lavage, on a parlé de la chaîne. Si vous faites le dernier entretien, le troisième point, on va dire que vous avez couvert le maximum et vous faites 100 fois plus que 90% des cyclistes. C'est les pneumatiques. Alors pourquoi ? C'est la zone en contact avec la route, elle assure l'adhérence, le rendement, le confort. Si la chaîne, c'est le cœur du vélo, les pneumatiques, c'est le foie, les poumons, voilà.
Non, continue, vas-y.
Une question me hante.
Oui ?
Est-ce que je peux laisser sécher ma chaîne au lieu de l'essuyer ? Je suis désolé, j'ai...
Non. Mieux vaut que tu sèches un peu avec un chiffon. Si elle est humide et que tu la laisses sécher au chaud, ok, mais pas la laisser tremper, parce que sinon tu vas laisser les pièces... Le problème de la chaîne, c'est que c'est toujours, sauf cas particulier, mais c'est toujours en acier, donc du coup, ça se corrode. Ah ben voilà, t'as trouvé un kit.
Oui, j'ai regardé sur internet.
J'ai la petite boîte à machin, ça fuit
partout. Ouais.
Non, enfin là c'est. Il y a surtout des brosses et des machins.
Oui, par contre, les brosses comme ça, c'est très bien. Hein.
Voilà.
Bon,
ça existe, les kits.
Vas-y, les pneus.
On est sur les pneus.
Pneumatiques.
Enfin, les pneumatiques, parce que oui, il y a la chambre à air aussi avec. Le maintien des qualités qu'on demande aux pneumatiques, donc c'est-à-dire l'adhérence, rendement, confort. Ça se fait à condition de conserver une pression adéquate et d'éviter l'usure du pneu et de la chambre à air par crevaison ou frottement. Si la pression est trop basse, on va également bousiller les roues, c'est-à-dire la jante, les rayons, on va voiler la roue, etc. Oui, une pression trop basse, ça peut vous faire voiler une roue. Et enfin, si la chambre à air apparaît comme étanche, le butyl, c'est le matériau qui compose la chambre à air... ça reste à l'échelle microscopique poreux, légèrement. Enfin, légèrement ou pas. Between, c'est assez poreux. Schwalbe, c'est un tout petit peu poreux. Du coup, la chambre à air va toujours perdre de l'air. C'est logique, c'est mathématique.
Encore plus si vous utilisez des chambres à air au latex.
Ah oui, elles sont connues pour ça. Le latex, c'est ultra poreux. Mais j'ai bien parlé du butyl. Le latex,
Attends. C'est pas le truc avec lequel on fait des capotes, le latex. C'est pas censé être pas poreux, justement.
Oui, mais c'est pas de l'air. C'est pas de l'air qu'on cherche à retenir dans les capotes.
On parle pas de porosité au liquide. On parle de porosité à l'air.
D'accord.
Voilà. En termes de liquide, en termes de gros trucs, c'est pas poreux du tout. Mais pour l'air, c'est poreux.
Merci pour le gros truc.
Voilà,
on enchaîne.
On enchaîne qui
Tu sais pas. Alors, comment on nettoie les pneus? Bon, pour les nettoyer, un coup de flotte, de la brosse, vous les essuyez sur le paillasson. Enfin voilà, vous devez avoir une idée comment nettoyer des pneus, quoi. J'imagine que vous savez comment faire. Nettoyer des pneus sur un vélo, c'est...
Alors par contre ça c'est un truc que je fais pas, tu vois, nettoyer les pneus.
Non mais c'est s'ils sont vraiment crado-crado quoi.
Comment on sait qu'ils sont crado-crado?
Quand tu les lèches ils ont un goût dégueulasse.
Merci. Voilà.
Très bien.
Donc bon, si vous estimez qu'ils sont à peu près propres, voilà, que vous y voyez clair, on va dire, dans les sculptures.
Si on se voit dans le pneu, c'est bon.
Ah si, oui, si, par contre des fois je nettoie le côté parce que j'ai une bande réfléchissante en effet.
Voilà.
Ça, en termes de sécurité
roule. Ça peut être bien parce qu'en plus elle peut, depuis quelques années, elle peut remplacer les catadioptres orange qu'on a dans les roues,
faux.
Techniquement.
J'en parlerai après, mais faux.
Il y a une circulaire en 2011.
Alors, on parlait du nettoyage des pneus.
Alors donc,
est-ce qu'on doit nettoyer les rayons ou c'est après?
Non, les rayons, c'est pas... Non, je parle vraiment des pneumatiques.
Moi, j'ai des trucs réfléchissants sur les rayons, c'est pour ça.
Donc, il faut nettoyer les bandes rétro-réfléchissantes et puis il faut essayer de voir un peu les sculptures. L'objectif, ça va être de voir la bande de roulement du pneu. de voir s'il y a des petites aspérités, des petits trucs comme ça. Quand ils sont à peu près propres, vous en faites le tour en les examinant correctement, pas besoin d'y passer des heures, hein, mais voilà. On regarde s'il y a des bouts de verre, des petites saloperies, des petits bouts de métal qui sont propres à faire crever et qui restent dans l'épaisseur de la gomme.
On peut en avoir et ne pas s'en être aperçu.
Oui. Et mieux, il y a des bouts de verre qui peuvent rester plantés dans ton pneu, qui ne te font pas crever pour l'instant, et qui vont rentrer peu à peu et finir par faire crever ta chambre à air.
Genre, il pleut, tu sais, la flotte lubrifie le machin et finit par pénétrer dans le pneu.
Exactement.
Un peu plus profondément. Et...
Plus vite là, tu peux avoir le truc qui est planté là, et quand tu l'enlèves,
Là, c'est tant pis. Épine de rosier, ça, c'est le must pour ça.
Voilà. Ou l'acacia.
Bah, ils savent se défendre.
Mais j'ai vécu le rosier chez Iwana.
Les rosiers savent se défendre.
Ah, tout à fait. Chez Iwana, une fois, elle avait des rosiers en bas de son ancien appart. J'ai roulé dessus. Le matin, je pars au boulot. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est sur ma roue? Au feu rouge, je retire, ça fait... Et merde. Voilà, je fais demi-tour. Voilà. Pour retirer les petits bouts de verre ou autres, avec un petit cure-dent, avec une pince à épiler, ce que vous voulez, il faut faire bien attention à les sortir et pas les enfoncer. Sinon,
Tous les combien ? On n'a pas encore parlé de la fréquence.
Je vais y venir. Là, pour l'instant, je suis à comment. S'il y a un trou qui se présente, vous voyez la chambre au travers faire une hernie, au revoir le pneu. Vous changez le pneu. Voilà. Je parle au travers du pneu.
Et probablement la chambre à air aussi.
Ouais, ça, il n'y a pas trop de problème. Le truc, c'est que si vous voyez clairement la surface de la chambre au travers du trou, c'est que le trou est trop gros. Clairement. Et d'ailleurs, ça m'a fait louper la Convergence 2016 à cause de ça. Mon pneu qui était déchiré, il y a eu une hernie, c'est ce qui m'a fait exposer le pneu.
Et après, il donne des conseils d'entretien.
Toi, Warthog, tu m'y attendais à la convergence. Oui. Ouais. Et du coup, je suis jamais
venu. Depuis ce temps-là, il s'est formé de dingue.
Hein?
Il dit que tu donnes des conseils alors que ça t'est arrivé, mais je dis que depuis ce temps-là, tu as une formation très au point sur le sujet.
Maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur.
Ouais, on te surveille.
Ouais.
C'est où t'habites, Gérard.
Ouais, mais vous savez, hein, les cancérologues, il y en a qui fument.
Voilà.
Cordonnier mal chaussé, tout ça. Bon, il faut aussi veiller à ce que les patins de frein n'usent pas les flancs. En théorie, les patins de frein sont censés frotter sur la jante seulement.
Ah oui, ça m'est arrivé.
Énormément de novices mal régler les patins et les patins frotter sur les flancs des pneus.
Tu veux dire des gens qui auraient réglé leurs patins, parce qu'à mon avis, ils n'ont rien réglé du tout.
Si, des fois, ils se disent « Ah, ça freine pas bien », ils essaient de bidouiller les trucs et puis au final, ils les dérèglent plus qu'autre chose.
Il existe des... Merde, comment ça s'appelle ? Les V-brakes de basse qualité tout pété qui freinent n'importe comment et qui se déforment petit à petit, et même quand tu les as bien réglés, en fait, quand tu serres bien fort le truc, le machin s'écrase et remonte vers le pneu.
Ben ouais, il faut pas utiliser ça.
C'est ça. Tout. Voilà. Ça existe.
Si c'est pas cher, du coup.
C'était sur les vélos de supermarché.
Voilà.
Quoi. Voilà. C'est... Alors donc. Si les patins usent les flancs, il faut essayer de les régler ou de les faire régler de manière à faire cesser l'usure. Si le flanc du pneu est trop attaqué, déjà on risque de voir apparaître une hernie et là, on change. Bon, une fois qu'on a vérifié que le pneu était à peu près d'attaque, on va vérifier la pression avec une pompe. Pour ça, moi je conseille d'avoir il faut une pompe à manomètre pour vérifier la pression, hein, ça c'est sûr.
Avec le petit cadran là.
C'est ça, maintenant.
En fait, c'est comme dans les stations-service pour les voitures.
Exactement. Mais je vais y venir. Tu fais bien d'en parler de ça.
Sauf que si t'as des roues un peu fines, en station-service, tu vas pas pouvoir monter assez
vite. J'y viens. Manomètre, c'était le fait d'avoir.
Donc, pour les pompes avec manomètre, il existe des pompes à pied, les grandes, vous savez, où on met les pieds dessus, puis on pousse avec les bras.
Ah, c'est des pompes à main, ça.
C'est des pompes à pied.
Non, on les tient avec les pieds, mais on pousse avec les bras.
Oui, mais c'est une pompe à pied parce qu'on la retient avec les pieds.
La pompe à main, c'est
la petite que tu tiens dans tes mains.
Shadok.
Ah non, la pompe à pied, c'est celle avec le gonfleur de plage sur lequel je fais psh psh psh.
Avec tes
pieds. Nous, on appelle les pompes à pied en atelier, c'est les pompes Shadok.
Ok.
Ouais.
Par opposition aux pompes à bras qui sont sur le vélo.
Voilà.
Ouais, ok.
Donc maintenant, ça existe pour 20 balles, autant en profiter, quoi. Avec le manomètre et des gros. Voilà. Moi, la mienne, c'était une Zéphale, hein, donc voilà, ça va tout seul.
Ça va, tu cuisines des bons trucs avec.
Ouais, je suis en train de penser exactement la même chose. Elle est tout en téflon.
Mais du coup, je choisis quel chiffre sur mon manomètre?
Il suffit.
Non, mais je connais la réponse, hein, c'est une question.
Alors,
pour...
tu prends un des 6, voilà. Tu fais 3 lancers.
Je vais venir après. Je termine juste pour les méthodes de gonflage. Pompe à pied, sinon on peut aller en station-service. Si on a des valves Presta, donc c'est les petites, fines avec la virole qu'on dévisse, ce qu'on appelle les valves françaises ou les valves italiennes, on peut également aller en station-service. Il y a des petits adaptateurs qui existent en laiton à visser.
Qui fuit tout le temps.
Hein ?
Qui fuit tout le temps.
Non. Les bons ne fuient pas.
À moins que vous manquiez de place,
et puis,
la pompe
alors,
à pied est assez pratique.
Pour le coup, l'adaptateur, c'est une petite merde dans les tons à visser. Et ça vaut 1 ou 2 euros.
Par contre, en station-service, en France, 90% des stations-service n'ont plus de gonfleur ou plus en état de fonctionner.
Oui, c'est... Oui.
Sauf sur l'autoroute, mais du coup, en vélo, c'est plus
alors,
compliqué.
Je reprends ma fiche.
Oui.
Attention, les pompes de station ne se trouvent plus autant qu'avant. Et elles ne montent que très difficilement à 6 bars. Et je pense jamais vu à ma connaissance de pompes qui montaient au-delà de 6 bars. Or, il y a des vélos qui vont monter au-dessus.
Non.
Pour connaître votre pression, je réponds à ta question, Mogor.
Oui.
Si vous avez une jante en acier, bon, c'est facile, vous vérifiez si c'est de l'acier ou de l'aluminium, vous prenez un aimant. Si ça colle, c'est de l'acier. Si ça colle pas,
Non, tu la mets 2 heures au four et en fonction de comment elles font,
voilà.
Tu verras en fonction de l'orientation.
Donc, si votre jante est en acier, on dépasse pas les 3,5 bars, 4 bars grand maximum. Les jantes acier, elles sont pas prévues pour encaisser autant de contraintes. Et si vous êtes un peu moelleux, comme moi, un peu, vous aimez bien bouffer.
J'aime cette expression.
Prévoyez une pression un poil plus basse, plutôt 3 bars.
Si vous avez des jantes en acier, allez les acheter en alu double paroi.
Si vous pesez lourd.
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est si vous pesez lourd qui veut dire quand il veut dire moelleux. Hein.
Voilà. Parce que je
suis. Vous pouvez être sec et peser lourd. Hein.
Je suis quelqu'un de confortable. Mmh. Si vous avez une jante en alu, bah là, on se conforme à ce que demande le pneu. Alors, c'est une fourchette. Vous évitez la valeur haute. Oui, c'est une fourchette, une valeur basse, une valeur haute, voilà.
Je suis perdu.
Sur ton pneu, tu as ta pression qui est indiquée. Et c'est une fourchette, on dit entre 3 et 5 bars,
ou une pression max, ça dépend.
Voilà, ou pression max.
Si on a une fourchette,
donc,
soit un couteau.
Si on a une fourchette, on évite la valeur haute, sauf si on fait plus de 90 kilos.
Parfait.
Et si on fait 50...
Le couteau, c'est pour les Suisses.
Si on fait 50, quoi, kilos?
Vous êtes des bâtards. Kilomètres. Vous êtes des bâtards.
Ah oui, mais on travaille beaucoup, ça vient pas tout seul aussi.
Sur la fourchette, vous tapez dans la valeur haute si vous faites plus de 90 kilos. Si vous êtes aux alentours de 50, vous prenez la valeur basse. En fait, cet écart, il est donné pour pouvoir faire varier en fonction du poids du cycliste la pression qu'on y met, quoi.
Les trous dans la chaussée.
Voilà, aussi.
Oui, du comportement du vélo. Hein.
Alors, quand le faire? Eh ben, une fois par mois aussi. Les chambres à air de basse qualité sont plus poreuses que les hauts de gamme. Donc,
je vois pas ce que tu veux dire.
Si vous avez une chambre à air premier prix ou des vieilles chambres,
une fois par jour.
Non, une fois tous les 15 jours, on va dire. je vais citer des marques. Between, moi, je suis obligé de le faire tous les 15 jours. Schwalbe, au bout d'un mois, elles ont quasiment pas bougé. Voilà. C'est dit.
On parle des chambres
des chambres à air.
Et pas des pneus. Non, mais
non,
je
pas
précise.
Des pneus.
Avec des chambres Schwalbe, j'ai eu des fois des vélos qui n'ont pas bougé en 6 mois.
Voilà. Elles sont très très bonnes qualité.
Qui ont perdu
un demi-bar.
Alors, c'est-à-dire que moi, en 6 mois, c'est moi qui bouge en poids et pas le vélo. Du coup, je regonfle, quoi.
Parce qu'il faut bien comprendre une chose concernant les pneumatiques, c'est que le fait de maintenir la pression, c'est le pneu qui va le faire. Parce que la chambre, c'est un ballon de baudruche. Tant qu'on gonfle, elle s'écarte. Voilà.
C'est beau.
D'où le fait qu'on ne gonfle pas une chambre à air sans avoir de pneu autour.
Bah, bien sûr.
Enfin, sinon, on peut, mais ça ne sert à rien.
Elle va se dilater jusqu'à éclater, mais...
Oui.
Bon.
C'est expérimenté.
Mais tu peux la gonfler longtemps, en fait. Hein. Elle va...
Très bien.
Comme mes parents, en fait. Je peux les gonfler longtemps. Ah, c'est cool, ça.
J'essayerai dès demain.
Voilà. Donc voilà, pour les chambres à air, ben, vous voyez à peu près.
Si... Je tenais à dire un truc sur les pompes.
Ouais.
À Lyon, en tout cas, la plupart des bouclards, si vous avez besoin de regonfler votre vélo, vous prêtent une pompe où souvent il y a un manomètre. Ça m'est arrivé souvent de prendre mon vélo, un vélo que je n'avais pas pris depuis longtemps, de commencer à rouler pour me déplacer et de me dire, c'est pas comme d'habitude.
Et puis t'arrives à vélo station.
J'ai peut-être regonflé les pneus. Et oui, comme j'ai deux ou trois bouclards sur ma route, ouais, je m'arrête et je dis excusez-moi. Et voilà, mon bouclard préféré, il a sa pompe près de la porte. Même pas besoin de lui demander, on y va.
J'aurais tendance à dire, pour un bouclard, refuser à quelqu'un de prêter une pompe pour refaire la pression, c'est comme pour un patron de bar refuser un verre d'eau, quoi. C'est, ça se fait
tout
pas.
Tout à fait, mais je le mentionnais voilà. Si...
T'as raison.
Si vous...
Voilà.
Si vous n'avez c'est... pas de pompe... Faites au moins ça déjà.
C'est vraiment minable de refuser de prêter une pompe, quoi. T'as quelqu'un qui a les pneus un peu plats. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je vois des gens rouler avec des pneus à moitié à plat et que j'ai la pompe dans le coffre, de dire attendez.
Excusez-moi.
Excusez-moi, vous voulez que je vous mette un coup parce que là vous allez péter votre pneu et tout. Ah mais c'est bien gentil monsieur. Voilà.
Bref.
Tu travailles la formulation.
Vous êtes des sales.
Ta passion, c'est de gonfler les gens dans la rue, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait. Je gonfle les gens dans la rue.
Très bien.
Donc, les chambres à air, si vous voyez qu'au bout d'une semaine, elles sont à plat, c'est qu'elles commencent à être trop poreuses. Elles sont vieilles. Il faut les changer.
Comme
votre
capotes.
Chambre est vieille.
Elle a de l'ostéoporose. Il faut la changer.
Pour les pneus, malheureusement, bah là c'est eux qui vous diront quand ils sont foutus. Si vous voyez qu'ils commencent à être craquelés, qu'ils présentent des zones d'usure avec des frottements très très conséquents, qu'ils présentent des hernies ou des grosses déformations locales, des bosses ou
creux.
que la tringle au niveau de la tringle il y a un déchirement, là le pneu poubelle.
Ça voilà. Vaut aussi quand vous achetez un vélo d'occasion.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc là, déjà, je vous ai donné les 3 points à vérifier. Si vous faites ça, déjà, vous aurez un vélo en bon état et vous pourrez aller fièrement chez votre bouclard pour faire l'entretien, changer une cassette, changer une chaîne.
Sinon, vous pouvez aller chez votre bouclard acheter du matos.
Voilà.
En premier.
Mais...
bah non, mais voilà, acheter du lubrifiant, une pompe et...
Quelqu'un qui fait ça, déjà, on est content de voir le vélo arriver quand on doit le réparer. On se dit, ah tiens, il en prend soin, etc.
Je vais peut-être aller chez mon bouclard.
Je vais en arrêter là pour cette fois-ci. Et puis, j'aborderai le cours confirmé la prochaine fois. Et je vais vous laisser la parole parce que j'ai un peu beaucoup parlé. Puis
est-ce
j'ai
que
mal à
le
la
cours
gorge.
Confirmé, on pourra le faire dans 2 mois, comme ça les gens se seront habitués.
J'aurai le temps de mettre le podcast en ligne.
Tout à fait. Voilà. Mais merci de votre attention.
Merci Prokylus pour ce cours de douche. Je vais vous parler rapidement. Bicycle. Je vais donc vous parler rapidement de ce qui est obligatoire en concernant l'éclairage à vélo.
Ouais.
Oui.
Les catalyseurs de tout à l'heure reviennent.
Alors, blind test. Non, pas blind test. Interro. Qu'est-ce qui est obligatoire sur un vélo ? En termes d'éclairage et de réflexion.
Catalyseur blanc à l'avant, rouge à l'arrière.
Oui.
Ou orange, je sais.
Blanc à l'avant, rouge à l'arrière.
Des machins
orange,
sur les côtés.
Orange sur les côtés.
Des machins sur les pédales.
Orange dans les pédales.
Exactement. Sauf si elles sont pliantes.
Pardon ?
C'est dans le code de la route. Catalyseur sur les pédales, sauf si elles sont pliables.
Ah, les pédales pliables.
Oui.
Et sauf pour les pédales automatiques.
Non, il n'y a pas de mention de pédales automatiques dans le code de la route. Il ne parle que des pédales pliantes.
Regardez la tête de Grincheux que vous ne voyez pas, qui du coup se dit je devrais
ajouter.
Il n'y a pas un phare à l'avant, puisqu'on a parlé des réflecteurs.
Les phares avant et arrière.
Oui.
Phare avant blanc ou jaune, phare arrière rouge.
Jaune avant et jaune à l'arrière.
Non, pas
jaune à l'arrière.
Rouge à l'arrière.
Rouge à l'arrière, oui.
Il manque une dénomination.
Fixé sur le vélo.
Oui.
Et éclairage fixe.
Très bien.
Clignotant à l'arrière, non ?
Clignotant à l'arrière. En effet, on a le droit depuis juillet 2016.
Ah oui, c'est oui.
Ah bah
c'est
ça tombe bien, je le faisais avant.
Alors, du coup, tout à l'heure, on parlait des flancs réflecteurs. Moi, j'avais entendu dire par quelqu'un qui travaillent dans les transports, justement, que on pouvait... Alors, il m'avait dit que on pouvait pas, mais qu'on pouvait. Il m'a fait tout un speech sur le...
Alors, ça n'est pas interdit, mais ça n'est pas considéré comme équipement obligatoire du vélo et suffisant.
Eh ben, alors, il semblait dire que si... je n'avais pas compris.
C'est autorisé en remplacement des catadioptres blancs ou oranges en Allemagne, en Belgique et en Suisse, mais pas et probablement dans d'autres pays, parce qu'en fait, c'est tiré d'une réglementation européenne, mais oui, qui n'a pas encore été transposée chez
nous. Sauf que dans le code européen, normalement, le code européen prévaut sur les codes nationaux.
C'est ça, je crois.
Et normalement, sauf que, par exemple, nous, les phares clignotants rouges à l'arrière qui ne sont autorisés que depuis juillet 2016, c'était aussi une norme européenne. C'est pour ça qu'on avait le droit de vendre des phares clignotants rouges en France, mais qu'on n'avait pas le droit de les utiliser.
Et ben voilà, serre-moi un coup de pinard. Comme quoi, encore une fois, l'Europe, c'est le bordel.
Donc, je récapitule.
On est à sec de pinard.
À l'avant, un phare blanc ou jaune, fixé sur le vélo, lumière fixe.
Fixé sur le vélo, ça veut dire qu'il peut être amovible ?
Oui, ça veut dire qu'il ne peut pas être fixé sur le cycliste. C'est une frontale, par exemple, ça ne marche pas. Les éclairages de casque, ça n'est pas interdit.
Non, mais ça n'est pas suffisant.
C'est des éclairages de complément.
Exactement.
Parce qu'il y a des éclairages qui sont interdits.
Ben, clignotant à l'avant, blanc.
Oui, et puis t'as aussi...
Le phare DDR.
Puis t'as aussi les spots de tracteurs là, qui font 1500 lux.
Le code de la route spécifie non éblouissant.
Voilà, donc eux ils sont éblouissants. C'est normalement utilisé pour faire du VTT nocturne.
Je ne les ai utilisés qu'en nocturne. Mais
j'ai une petite lampe sympa là, avec une petite bouton au guidon pour faire passer à la vitesse max, enfin la luminosité max pour faire des appels de phare aux automobilistes là. J'aime bien.
Les mecs ils finissent, ils sont en chemisette et en short, ils ont bronzé quoi. Putain la vache.
Donc, phare blanc ou jaune à l'avant, lumière fixe fixée au vélo. Phare rouge à l'arrière, lumière fixe ou clignotante. Vous pouvez avoir les deux à partir du moment où ils sont l'un sur l'autre, dans le plan longitudinal du véhicule.
Titre.
Catadioptre rouge. Catadioptre
perpendiculaire.
Orange latéraux.
Péremptoire.
Attention, orange latéraux, on a dit orange et latéraux. Ils ne sont pas obligés d'être dans les roues. Mmh. Et il n'y a pas de notion de taille. D'accord ?
D'accord.
Et catadioptre orange dans les pédales. Pareil, il n'est pas spécifié qu'on doive les voir de devant et de derrière. Donc vous pouvez avoir des catadioptres orange sur les côtés de vos pédales. Vous matchez deux.
Ouais, enfin, en même temps, si on est capable de lister tous les points à avoir, je pense qu'on en sait plus que beaucoup de flics qui vont nous.
Oui, non, mais tout à fait. Bah, par exemple, moi, tu vois, typiquement, mon vélo que j'ai acheté, qui est pourtant vendu en France, j'ai des catadioptres blancs dans les roues. Ils ne sont pas orange. Bah, c'est pas autorisé. Ouais. Enfin, c'est pas autorisé, c'est pas interdit, mais j'en ai pas des oranges. Ça, par contre, c'est pas autorisé.
T'en as qui t'en manquent et qui donc n'étaient pas fournis avec le vélo quand tu l'as acheté.
Peut-être, ou alors c'est un vélo que j'ai acheté sur le net, alors peut-être que du coup d'autres législations de pays permettent des catadioptres blancs.
Je me demande si c'est pas outre-Atlantique qu'on met les blancs.
Enfin, je sais pas.
Vous allez voir, c'est un vélo québécois.
Peut-être, c'est possible.
C'est possible, ils ont des lignes jaunes là où on a des lignes blanches, alors pourquoi pas.
Tout à fait. Donc on en parlait, les bandes réfléchissantes ne sont pas interdites, simplement elles ne sont pas suffisantes, il faut des catas...
Selon le code français, selon le code européen, si, mais c'est le bordel.
Exactement. Donc pareil, hein, les pédales, ce que je vous disais, c'est qu'il faut des catadioptres, on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas quelle taille ils font, il n'y a pas de spécification. Les phares sont à utiliser la nuit, bien entendu, dans les tunnels, et de jour, lorsque les conditions l'exigent.
La pluie,
le brouillard,
le tunnel.
C'est exactement
le tunnel,
comme pour les bagnoles.
Comme pour les bagnoles.
On partage les grenouilles. Le même code de la route.
Exactement. Les lumières doivent être fixes, ça j'en ai déjà parlé. Fixées, attachées au vélo, mais elles peuvent être amovibles.
Tu ne te travailles pas avec ta lanterne à la main.
Tu peux, à partir du moment où tu as déjà des lampes sur le vélo.
Bring on your dad.
Voilà, c'est complémentaire. Dernière chose sur la partie lumière, le gilet jaune qui est obligatoire pour les pilotes et les passagers hors agglomération.
Même à l'intérieur d'un cargo ?
C'est pas précisé, c'est passager d'un cycle. Oui. Tes enfants dans le cargo sont passagers du cycle, ils doivent avoir des gilets jaunes si tu les emmènes de nuit hors agglomération
et
ou de jour lorsque les conditions l'exigent.
Sinon de nuit tu les caches
de nuit
une couverture
et hors agglomération,
oui.
Ensemble.
Oui.
C'est un « et » inclusif.
Ça, c'est l'obligation.
De nuit ou quand les conditions de luminosité l'exigent.
Mm-hmm. Lorsqu'on est
« et » hors agglomération.
Voilà.
Donc, vous pouvez emporter en ville, ça n'est pas obligatoire.
Ça n'est pas interdit, mais ça n'est pas obligatoire.
Ça n'est pas interdit, voilà. Je veux dire.
Non, mais tout à fait.
Je vois des tas de gens qui portent des gilets jaunes, on va pas leur dire stop.
Et il n'est pas obligatoire de le porter hors agglomération s'il fait beau de jour.
Voilà.
Voilà.
Cela dit, quand vous vous baladez à vélo, si vous pensez que vous allez sortir d'une agglomération,
il faut l'avoir avec
prenez
soi.
Prenez votre caouet et votre gilet jaune.
Le gilet jaune, comme c'est tout petit, tout fin, ça peut vous bourrer sous la selle.
Exactement.
Et puis ça peut servir.
Ouais. Toujours. Oui.
Alors typiquement, souvent en ville, on voit des gens qui ont un gilet jaune, mais pas d'éclairage.
Ça, c'est très bête.
Parce que ça n'est que passif, en fait.
Voilà. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui va éclairer votre gilet jaune, on le verra.
Alors,
pas, quoi.
C'est vrai que les éclairages, faut les acheter.
En France, on n'a pas le droit de vendre un cycle sans éclairage.
Oui.
Ceci
même
dit,
d'occasion.
Neuf.
Oui, c'est ça, parce que quand tu l'achètes d'occasion, quand tu as récupéré celui de ton grand-père du grenier, je ne sais
et
quoi.
Et même mieux.
Une dynamo, celui de ton grand-père.
Quand la répression des fraudes a décidé de faire chier un vendeur de cycles, bonjour, où est votre carton d'éclairage ? Et les mecs, ils peuvent faire compter tous les éclairages pour vérifier qu'il y a le nombre requis pour tous les vélos du magasin.
Et du coup, si j'ai acheté un vélo sur le Bon Coin ou autre, et que j'ai pas d'éclairage, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Alors ça dépend de ta pratique, comme d'habitude. Ouais. Est-ce qu'elle est uniquement urbaine ? Est-ce qu'elle est extra-urbaine ?
Non, mais grosso modo,
au minimum...
Combien ça coûte un éclairage ?
Décathlon fait un kit phare avant-arrière qui se recharge en USB à 17 euros.
Je crois que c'est ça.
Très bien.
20, tu vois, mais
donc, c'est pas pour faire de la pub pour Décathlon. GoSport doit avoir un truc équivalent, Intersport aussi.
Ça fait la rue Michel, c'est très bien.
C'était pour la gamme de prix que je demandais ça. Voilà.
Entre 15 et 20 euros, tu vas trouver quelque chose.
Voilà. Alors, soit vous avez un vélo neuf et on vous a vendu des éclairages avec.
Qui vont être merdiques.
La plupart du temps, sauf si vous achetez spécifiquement un vélo urbain qui va être équipé de raffinement style moyeu dynamo et éclairage qui détecte quand c'est la nuit qui tombe et qui s'allume tout seul ou ce genre de truc.
C'est beau.
C'est la qualité, quoi. Ça fait plaisir. En général, ouais, c'est de la merde. Typiquement, c'est un bidule en plastique avec une pile bouton qui va éclairer une heure et demie péniblement. Et, c'est et
donc,
quand je dis éclairer, c'est plutôt luire.
Et les recharges
si
en USB,
la pile
c'est
pas vide quand,
si la pile n'est pas vide quand tu l'achètes. Ouais.
Si, justement, ce dont Grincheux parlait, les recharges en USB, c'est très bien.
Ouais.
Parce que c'est de la batterie, c'est pas de la pile et ça se recharge.
Hein, j'utilise ça depuis...
Voilà.
Après, si vous avez... Un vélo, vous en servez tous les jours et vous faites des trajets. En effet, le moyeu dynamo avec l'éclairage à demeure, ça reste un luxe.
Alors, j'ai des dynamos de mon grand-père. Enfin, c'est pas du tout mon grand-père.
Des dynamos bouteilles.
Et j'ai des dynamos bouteilles qui frottent sur la partie de la roue dont on parlait l'autre fois. C'est extrêmement fatigant en montée.
Je vais mettre mon petit grain de sel, d'ailleurs. Toi comme moi, on a fait un lapsus, Warthog. C'est pas des moyeux dynamo, c'est des moyeux alternateurs. C'est un appareil électrique légèrement différent parce que l'alternateur fournit un courant alternatif. Est-ce que la dynamo, c'est continu ?
Non.
Ah bah si.
Je vous propose de faire un petit jeu. Envoyez-nous un message. Si vous êtes dans la team alternateur
les dynamos bouteilles à l'ancienne, donner un courant continu. D'ailleurs, vous pourrez le voir.
D'ailleurs, ça éclaire plus quand tu pédales plus fort.
Exactement.
Quand la roue
alors
plus
que
vite, en fait.
Les moyeux alternateurs donnent un courant normé.
Oui.
Pour ça que ça clignote d'ailleurs. Vous le vérifierez.
Pour avoir testé les
Grincheux et moi sommes sceptiques. On va donc procéder au démontage d'une bouteille,
vous verrez.
D'une bonne bouteille.
Alors écoutez, j'en ai une, justement, j'aimerais bien qu'on la démonte, mais aussi qu'on la remonte. Enfin bref, je vous explique.
Alors on fait le démontage, tu feras le remontage, d'accord ?
Non, je voudrais qu'on me remonte un phare.
Je suis en train de t'amener une roue avec une dynamo. Enfin, avec un
moyeu alternateur.
Par contre, moi j'ai des dynamos bouteilles qui frottent là, qui fonctionne, enfin c'est-à-dire que on peut encore faire frotter. Je ne les mets jamais parce que c'est extrêmement fatigant, mais c'est vrai que quand la roue tourne plus vite, ça éclaire plus.
Voilà.
Par contre, le gros inconvénient par rapport au système beaucoup plus moderne, j'ai vu des systèmes où quand tu arrêtes de pédaler, la lumière reste allumée. Typiquement, quand tu es à un feu rouge ou quand tu t'arrêtes 5 secondes, ça reste allumé.
Oui.
C'est pas le cas quand t'as ta dynamo continue là.
En fait, c'est pas dû à la dynamo, c'est dû au phare.
Mais voilà.
Qu'il a un condensateur.
Ça, c'est un gros inconvénient de la dynamo.
Le gros inconvénient du condensateur qui fait que ça reste allumé, c'est que tes collègues, quand tu t'es garé au boulot, j'ai vu que t'avais oublié d'éteindre tes phares, je les ai éteints.
Putain, ça sert à rien. Lui. Oui. Je lui partira quand même. Quoi.
Juste à ce que moi, je fasse pas gaffe et j'ai, je reparte le soir sans lumière.
Bah, mais ils ont réfléchi en mode bagnole. Ils sont vraiment dur. Tu ne pourras plus repartir si sa batterie est vide.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est gentil.
J'espère que dans ce cas-là, tu leur montres tes jambes en disant « Regarde, je vais te montrer ma batterie où je la stocke. »
Voilà. Moi, je leur montre le grave mon bide, mais ça marche aussi.
Alors, pour le coup de la dynamo et de l'alternateur, hein, je vous le dis, je suis sûr de mon coup. Hein.
Ça ne nous empêchera pas de vérifier.
Oui, tout à fait. La dynamo bouteille, à moins que les récentes soient devenues des alternateurs, mais si vous voulez, les anciennes classiques, c'est un aimant qui tourne dans une bobine.
Non, pour de vrai, j'ai une vieille dynamo et je m'en sers pas.
Et ça produit un courant continu, mais le rendement est pourri à l'intérieur, en fait.
Je vous l'offrirai, si vous voulez.
En fait, tu veux savoir comment savoir si ta dynamo bouteille est un alternateur.
On va en parler longtemps, là ?
Ou pas ?
On va en parler longtemps, là ? Sérieux ?
Tu regardes, c'est combien il y a de fils qui sortent ?
Très bien.
Si t'as une masse sur le cadre, c'est que c'est un alternateur.
Si c'est moins sur le cadre, ça marche.
Oui,
ça fait une masse sur le cadre. Voilà.
Non, mais je sais.
En fait, ça ne sert à rien parce que c'est un débat stérile.
Moi, ça me fait penser à l'épisode de Big Bang Theory avec Sheldon qui fait des podcasts sur les drapeaux.
C'est ça.
il faudrait une petite mascotte Fun with Flag.
C'est ça, Fun with Dynamo.
Et voilà, donc on parle de moyeux dynamo, mais on ne devrait pas, c'est des alternateurs à l'intérieur.
Eh bien, merci, Dr. Prokin.
Quoi qu'il en soit, il vous faut un phare à l'avant.
Il vous faut un phare à l'avant, blanc ou jaune, et à l'arrière, rouge.
Et dans tous les cas, les moyeux qui produisent de l'électricité pour les phares, une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer.
Mais cela dit, c'est assez onéreux, donc les phares premier prix du magasin de sport qui se rechargent en USB, c'est pas mal non plus.
C'est suffisant pour de la ville, ça vous permet de les enlever, et si vous avez plusieurs vélos, c'est pratique.
Et pour les noobs, quand le phare se décharge, il le signale, en général, il y a une petite LED rouge qui s'allume. Moi, j'ai des Knog et j'en suis ravi. Je les ai achetés il y a 7 ans, 8 ans. Je regarde quand je veux parce qu'il était avec moi. Mais...
Ça existait l'USB
quand on s'est connu.
Ah, sérieusement, ouais. Sérieusement,
quand on s'est connu, quand vous êtes arrivé ici.
Ouais.
D'accord. Donc oui, après 8 ans, ça marche toujours et tu peux le recharger.
Oui, il fonctionne encore et je peux le recharger parce que c'est des Knog. C'est important.
Ouais.
Et en fait, c'est parce que. Alors déjà, je les utilise peut-être moins que Grincheux ou moins Grand Type ou quoi, mais la languette, elle est rangée. Elle est bien, c'est bien foutu. La languette est.
Ah oui, t'as une petite languette qui se referme sur la prise pour l'étanchéifier.
Ouais, exactement.
D'accord.
Donc, du coup,
donc ça ne prend pas.
Je montrerai parce que c'est dur de décrire.
Montre-nous
mais...
ta languette.
Mais ouais, la languette est planquée et ça dure longtemps. Donc j'ai investi dans quelque chose d'un peu plus onéreux, mais je ne suis pas déçu.
Ok.
Voilà.
Bon, ben voilà.
Donc du coup, plus d'excuses pour rouler en ninja la nuit.
Ninja.
Ah mais surtout pas d'excuses. S'il y a bien un truc hyper dangereux, c'est rouler sans lumière la nuit.
Oui, c'est-à-dire que le gilet jaune. Ça
voilà,
vous...
moi je croise régulièrement des
le
gars.
Le gilet jaune, c'est moche.
Mais
ça peut sauver la vie.
Mais ça ne suffit pas pour sauver la vie.
Oui, oui.
C'est surtout qu'on vous voit au dernier moment puisque c'est réfléchissant. Donc si les phares ne sont pas dirigés vers vous, on vous verra au dernier moment.
Ouais. Non, moi je croise régulièrement des gens en casque et en gilet jaune sur des vélos de nuit pas éclairés.
Et tu ne les vois pas ?
Bah non, mais surtout se protéger et pas faire les premières démarches pour qu'on évite l'accident, c'est prendre le problème à l'envers, quoi. Soyez visible, soyez identifiable, parce que c'est ce qui vous évitera.
J'avoue que j'ai mis il y a aussi assez longtemps des petits bâtons sur mes rayons, des bâtons réfléchissants.
Ouais.
Comment on appelle ça ? Des bâtonnets réfléchissants qui se clipsent sur les rayons, parce que en conduisant en voiture, je suis arrivé. Un vélo est passé devant moi et j'ai vu ces réflecteurs, j'ai vu les bandes réfléchissantes et j'ai juste vu ces deux ronds réfléchissants. J'ai pas du tout vu le cycliste dessus parce qu'il avait rien sur lui qui réfléchissait. Et c'est là que je me suis dit que j'allais augmenter.
Même pas un cerveau.
Il avait
pas
réfléchi.
Ça se trouve, le vélo roulait tout seul. Ça, c'est un autre sujet d'une autre vidéo.
Oui.
Mais du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit ah, faut que je rajoute des choses passives réfléchissantes parce que c'est vrai qu'il faut qu'en voyant. En voyant le truc,
on puisse l'identifier tout de suite.
On se dise, c'est un vélo. Et à un moment, mon gilet jaune derrière, je l'avais fait floquer. Alors, ça aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des floquages dans les magasins de sport en réfléchissant sur n'importe quelle veste. Ça remplace pas les gilets jaunes.
Oui, d'accord. Okay, ouais,
et j'avais fait floquer une veste, un coupe-vent. En bas, j'avais juste fait floquer le mot cycliste. Donc, les gens qui arrivaient de loin.
Et t'avais fait floquer le bout des manches.
J'avais fait
floquer
les manches, oui.
Comme ça, quand tu tends le bras, on te voit.
Quand je tendais le bras, on voyait le réfléchissant. Je ne sais pas si ça m'a vraiment sauvé ou quoi que ce soit, mais j'avais trouvé ça astucieux.
J'ose espérer que tu n'étais pas mise en danger pour que ça ait eu besoin de te sauver.
Du coup, j'ai pris une bretelle de la rocade en pleine nuit pour voir si ça marchait bien.
En l'occurrence, j'étais à Paris à l'époque et c'était tout aussi dangereux que les bretelles de la rocade, puisque j'allais vers Porte de Clichy, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et j'avais hésité d'ailleurs, quand j'avais fait floquer le cycliste, à mettre d'autres mots plus ou moins agressifs. Et plus ou moins grossiers, mais plus ou moins agressifs. Et j'avais penché pour la description qui paraissait un peu débile, mais je me suis dit, le mec qui conduit, il voit un truc réfléchissant, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, cycliste ? Et hop, dans son cerveau, ça, cognitivement, c'est peut-être plus facile.
Ralenti, bordel !
Alors j'avais hésité, voilà, à mettre des choses plus ou moins agressives comme ça.
Ok. Mmh.
Bonne idée, très bonne idée.
Vous pouvez faire floquer vos sacs, vos vestes.
Après, c'est pareil, hein, les sacoches, il y en a beaucoup qui sont réfléchissantes.
Oui, les équipements prévus pour, mais vous pouvez faire floquer, j'en sais rien, moi, vos jeans. Non, il y a les slaps, t'as pas parlé des slaps.
Ah oui, et les slaps, les petits machins
qui
s'accrochent au bas du pantalon.
3 francs 6 sous, sérieusement, ça doit coûter 3 euros. Les espèces de bandes qui enroulent votre cheville.
Qui les sont offerts
souvent en offre,
en
cadeau.
Publicitaire.
Voilà.
Les slap wrap, ouais.
Je sais pas ce que vaut la peinture réfléchissante là.
Life Paint.
Qui c'est qui disait, c'est une super bonne idée pour aller taguer des bits de jour sur les voitures des gens mal garés qu'on verrait la nuit après.
Encore un plan.
C'est une idée géniale.
Encore.
Je suis à ça d'en acheter. Quoi.
Putain, je te suis quoi. c'est une idée géniale.
Là, tu les repères de. Ah
Mais on saura que c'est vous, les gars, arrêtez.
Non, ça,
vous êtes
on t'aggra pas des bites, on t'aggra autre chose en fait, c'est ça notre. Tu vois, on pourra pas nous reconnaître.
Bien sûr, oui.
T'aggra des chats, on croira que c'est toi.
Vous t'aggrez cyclocaste.
Putain, pour faire de la pub clandestine de nuit, quoi, cyclocaste.fr. Non, ne faites pas ça pour nous, pitié, on va avoir des ennuis après.
C'est clair. Non, mais je pensais au slap parce que c'est vraiment peu cher.
Oui.
Et ça évite de se prendre son pantalon.
Pas cher.
Oui.
C'est dommage, on l'a
Merci
perdu.
Mogor, c'est donc la fin de l'intervention de Mogor. Elle rigole. Jusqu'au prochain podcast à peu près, je pense. C'est fini.
C'est ça.
Messieurs, mesdames, je crois qu'on a fini. T'as encore quelque chose ?
Moi j'avais un petit...
Une chanson.
J'avais un mini dossier.
Oh.
T'as 10 minutes.
Alors... Des fois, il y a des choses pas cool. On se fait voler son vélo.
Quoi ? Comment ?
Ça m'est arrivé il y a quelques mois.
On n'a pas payé.
Donc ça nous est arrivé il y a quelques mois. On s'est fait fracturer notre garage. Et là, manque de bol, c'était un jour où j'avais laissé le Brompton dedans aussi. On nous avait piqué deux vélos, dont le Brompton.
Et tu ne parleras que de celui-là.
Non, okay. je vais d'abord parler de qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que on est là devant sa porte de garage fracturée, on nous a piqué nos affaires. Donc la première chose, c'est d'appeler les flics, les appeler pour qu'ils viennent constater l'effraction, et à partir de là, on va pouvoir aller au commissariat porter plainte
et réparer la porte.
Et contacter
les porter plainte s'ils sont pas venus voir que c'était pété.
Exactement. Si tu vas au commissariat,
ils n'ont rien constaté.
Ah ben, il faut qu'il y ait une patrouille qui vienne constater qu'il y a bien eu effraction.
D'accord.
Donc faites les choses dans l'ordre.
Donc voilà, dans l'ordre, c'est appeler les flics. Appeler l'assurance aussi pour qu'ils vous envoient un serrurier pour que vous puissiez fermer, sécuriser ce qui reste dans le garage.
Sans avoir à payer, puisque c'est l'assurance qui l'envoie.
Voilà.
C'était ça aussi le point.
Sans avoir à payer, il y a des franchises qui s'appliquent.
Mais tu ne payes pas 800 balles de serrurier, quoi.
Non, mais bon... Les 150 euros de franchise pour mettre un coup de pied de biche pour redresser la porte.
On va tout savoir. Bon. D'accord, donc les flics, l'assurance.
Voilà.
Ok.
Ça, c'est la première chose. Donc, dans la déclaration au commissariat, si votre vélo était équipé d'un bicycode, signalez-le, donnez bien le numéro du bicycode. Prenez votre passeport bicycode pour justifier du vélo.
De ton expérience, les flics savaient ce que c'était
Oui, ils me l'ont demandé. C'est eux qui me l'ont demandé directement.
Okay.
Bah pour eux c'est un outil hyper génial.
Ouais non mais je pensais oui, pas non. que c'était aussi
le bicycode en fait. Au début les policiers n'avaient rien à taper, et puis quand on leur a expliqué le principe, ils se sont rendus compte que ça pouvait leur permettre de confondre les suspects. Alors consommer d'accord, c'est pas pour le vol de vélo. Le vol de vélo, sinon ils en ont rien à faire.
C'est pour démonter les réseaux.
Voilà, parce que généralement, les mecs qui volent des vélos font pas que voler des vélos. Oui. Et eux, ça les intéresse de pouvoir demander une perquisition et tout fouiller chez un mec qui suspecte de trafiquer de la drogue, s'ils peuvent le mettre en cause pour des vols de vélos. T'as compris
Ils croisent les données.
Ouais. Voilà, ils croisent les données, c'est exactement ça.
Profiter d'une perquisition pour monter un échelon plus haut sur un autre dossier.
Et du coup, quand ils ont compris l'intérêt du BC-Code, ils ont adoré les policiers.
Donc voilà, le BC-Code.
Est-ce qu'il faut les factures de son vélo?
C'est mieux. Plus tu as de papiers qui peuvent prouver que c'était ton vélo, mieux c'est.
Est-ce que des photos servent à quelque chose?
Bon, on m'en a pas demandé. On m'a demandé les factures. Donc justifier que de ce qu'il y avait, ce qui m'a été volé.
Comment t'as fait pour le vélo que t'avais pas payé?
Alors en effet, le Brompton, comme on en a déjà discuté, c'est un vélo que j'ai gagné suite à un concours.
La chance.
En effet. Donc je n'avais pas de facture. C'était une chose que je voulais faire depuis longtemps, contacter le Brompton France qui organisait le concours.
Je te l'ai fait court, qu'il a organisé Brompton, qui l'a fait gagner son vélo, en expliquant « j'ai besoin de prouver qu'il est à moi ». Et lui envoyer les documents qu'il fallait, voilà.
Il m'a envoyé une facture.
D'accord. De mémoire, il y a un numéro de série sur les boîtiers de pédalier Brompton.
C'est pas sur le boîtier de pédalier, mais oui.
Donc attends. Donc, t'es fait voler, t'appelles les flics, l'assurance.
J'ai appelé les flics, donc fait la déclaration de vol, appelé l'assurance, après envoyé le rapport de police, la plainte pour la déclaration de vol. L'assurance envoie plus ou moins rapidement des experts qui vont venir constater ce qu'il n'y a plus.
Ok. Des marabouts, donc.
Ouais. Alors, moi, ils sont venus, on est restés dans le salon, ils sont pas descendus vérifier quoi que ce soit.
Ah bah bravo, tu discrédites les experts.
Non, parce que...
C'était difficile de constater.
Voilà. L'effraction sur la porte du garage a été constatée par la police, c'est dans le rapport de police. Bon, il n'y a rien d'autre à constater après.
Il n'y a pas de dégâts matériels à constater après chez toi.
Voilà. Les flics, quand ils sont venus, ont fait des relevés d'empreintes. Ils n'ont rien réussi à... pas eu d'empreintes propres, exploitables. Contre, l'expert, eux, ils vont collecter toutes les factures, faire les calculs de vétusté... Alors en fonction des garanties que vous avez souscrites, pour calculer ce qu'on va avoir comme dédommagement. Bon, il se trouve que l'expert a mis une dizaine de jours à venir après le vol. Moi, quotidiennement, je m'étais mis des alarmes de recherche pour voir si je voyais ressortir le Brompton sur le bon coin, parce que un Brompton comme le mien, orange, avec les options qu'il y avait dessus.
Un Brompton gratuit.
Alors, gratuit, ça se voit pas.
Oui, mais nous, on sait.
Bon, bref, il a été caractéristique.
Il était assez facilement reconnaissable. Et en effet, au bout d'une semaine, un soir après que des copains soient venus à la maison, je fais ma recherche avant de me coucher. Et là, je vois mon vélo. À 1h du mat, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais me coucher, j'appellerai le commissariat le lendemain matin.
Tu t'es dit, enfin,
tu vois un vélo qui ressemble énormément au tien.
Non, il voit une annonce avec une photo. Oui,
voilà, je vois une annonce.
L'annonce, pour avoir moi-même lu cette annonce, n'était pas très descriptive. Elle disait juste vélo pliant.
Bon, je crois qu'ils avaient mis la marque.
Possible.
Mais pas le détail de l'équipement. Pas le détail du modèle, exemple. Pas le détail de l'équipement. Et un prix largement en dessous de la valeur du vélo.
Non, mais je l'avais vu, c'était fait.
T'aurais dû
l'acheter. J'avais failli l'acheter.
Oui, non, je l'ai posté sur mon Facebook, mais
Donc, qu'est-ce s'est-il passé ensuite?
Donc, ensuite, je vois cette annonce qui, très vraisemblablement, est mon vélo. Donc, j'ai appelé le commissariat. J'aurais dit, voilà, il y a une semaine, j'ai porté plainte, je me suis fait cambrioler, j'ai porté plainte pour le vol de mon vélo. Là, je viens de voir une annonce avec un vélo qui ressemble énormément au mien, qui est dans la même région. et dans le même dans un délai assez court. Ils m'ont dit ben en effet c'est, ça mérite qu'on investigue, mais par contre là le vélo vous me dites qu'il est à Vénissieux, donc dans une autre commune, contactez le commissariat de Vénissieux. Donc je les ai contactés. Ils m'ont dit ben très bien, ben prenez rendez-vous avec le receleur.
Non, le pardon, le vendeur.
Le vendeur.
Le présumé receleur.
Le présumé receleur, oui.
Tout de même. Ben, nous, on sait qu'il voilà, était coupable, mais allez.
Prenez contact avec lui, prenez rendez-vous, et puis nous, on est disponible, on vous accompagnera en filature, et on interviendra pour vérifier les identités.
Est-ce qu'ils t'ont mis un micro ?
Non.
Oh, une caméra.
Non, non.
Une sonde.
Mais stop, hein, dans le cul,
mais stop, hein. Ils ont été tout à fait corrects, hein, mais c'est pas grave.
Tu peux être correct avec un doigt dans le cul.
Non, mais là,
pas...
alors, tu viens pour avoir suivi l'affaire heure par heure. Ouais. Déjà, sachez que, genre, tout l'entourage demandait alors, avez-vous retrouvé le vélo ? Alors, avez-vous retrouvé le voleur, etc. Parce que les gens espèrent toujours qu'on va retrouver ça. Ça restaure leur foi en l'humanité.
En courage de la police aussi.
Oui, et en la justice, vous voyez.
Donc les flics t'équipent, tout ça, ils t'emmènent dans une planque.
J'ai pris rendez-vous avec le vendeur.
Pas un petit gilet de pierre.
Je vais au commissariat avant le rendez-vous pour me faire briefer par les policiers.
Ils t'ont mis des claques.
Mais arrête.
Oh. Non, c'est au bottin, ça laisse pas de traces.
Donc les mecs m'accompagnent mais me déposent quelques centaines de mètres avant. Il y en a un qui était dans une deuxième voiture qui va se mettre en planque de l'autre côté. Une fois que tout le monde est en place, il me donne le signal pour y aller.
Là, vas acheter ton vélo.
Je vais en tout cas voir mon vélo, si je suis intéressé pour le racheter.
Ah.
Et donc là, gros moment de stress parce que je sais pas du tout quel est l'esprit du mec que je vais avoir en face. Est-ce que c'est un mec qui va être agressif, qui va vouloir...
Il veut te vendre un vélo, hein, normalement.
Oui, normalement, il veut vendre un vélo. Voilà. Et j'arrive, j'appelle le mec. Ah ben non, je suis pas chez moi. Je vous envoie... mon fils va descendre. Je me dis, putain, les mecs, ils sont en train de repérer. Il y en a un qui fait le guet, je sais pas. Enfin, on se monte des plans. T'as un mec qui passe la tête par le balcon. Tu te dis qu'on est en train de te...
Vénissieux, guetter pour les flics, c'est un métier. Hein.
Oui. Voilà.
Ah non.
Après quelques minutes, le fils qui devait avoir 18-20 ans descend avec le vélo. Il s'y passe... Bon. Et puis donc je vois le vélo, je vois des détails qui montrent que c'est bien le mien. Donc je fais un signe, aux flics que c'est bien.
Ah, c'est bien un code secret quand même, quelque
Kems,
chose.
Kems, oui. Kems, voilà. Kems.
On avait fait un code à Kems. Et donc là les mecs arrivent, contrôle d'identité. On voit que vous semblez faire une transaction sur un vélo. On nous a signalé des vélos volés, donc on vient vérifier l'identité. Le père arrive sur ses entrefaits. Il a joué calme. Les flics ont expliqué, ont embarqué le père, moi dans une voiture différente. Et puis en me disant là, vous avez identifié le vélo, c'est bon. Le mec rapidement commence déjà à dire que oui, alors il l'a acheté à un copain, enfin voilà, c'est, il n'y a pas eu besoin de taper dessus pour lui faire dire que la source était pas très claire.
Et du coup en termes de restitution, comment ça se passe?
Donc, en termes de restitution, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas me le refiler à
ton
moi.
Vélo,
parce
c'est une
que
preuve.
C'était une preuve. Non, c'est surtout que tant que lui n'a pas reconnu qu'il était receleur et qu'il acceptait de rendre le vélo, il fallait démontrer qu'il était receleur et que ce vélo n'était pas à lui.
Et là, bottin.
Je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc moi j'ai été rappelé un petit peu après pour aller récupérer le vélo le lendemain au commissariat du 8e.
Et donc il parle de Lyon, 8e arrondissement de Lyon.
Et là, l'inspecteur qui m'a reçu m'a dit que voilà, en fait, le mec a balancé qui lui a revendu, qui a balancé qui lui a revendu, qui n'a pas pu balancer qui lui, enfin, qu'il avait revendu parce qu'il a prétendu l'avoir acheté aux puces à 80 euros, un truc comme ça.
Il y a des Brompton à 80 balles aux puces.
Putain, vas-y,
on y va.
J'y suis allé, j'ai pas trouvé.
Ah, mais t'as mal cherché, c'est tout. Voilà.
Écoute, il y a les puces demain. Donc, je suis voilà. Sûr. Vas-y, hein. Vas-y tout de suite.
Donc voilà, et de mémoire, les mecs sont convoqués au mois de novembre.
D'accord.
Pour recel et recel, ce qui vaut la même chose que le vol.
Le seul truc un petit peu stressant dans l'histoire, c'est que les personnes qui ont volé le vélo, à défaut de savoir où on habite, ils que savouaient notre garage.
Oui.
Donc ils savent à peu près où on habite.
Et eux habitent à 500 mètres de chez nous.
D'accord.
Toujours sympa.
Ouais, après...
Donc dans les perquisitions, il y a eu d'autres vélos de retrouver, un Kalashnikov.
On espère juste que leur trafic concerne les vélos et pas la violence envers les personnes. C'est surtout ça.
Cycliste.
Voilà.
Forcément.
Mais voilà.
Bon, ils savent donc sur des vélos à vélo.
Sur des vols de vélos. Alors si c'est un Rock Rider 300
qui n'a pas beaucoup de caractéristiques.
Voilà, ça va être difficile de l'identifier et au niveau de la valeur marchande l'investissement de temps pour un vélo qui est pas forcément identifiable, je suis pas sûr que les flics vous suivent. Mais sur des vélos qui sont un peu plus identifiables ou avec des bicycotes qui permettent d'être sûr de le reconnaître.
T'avais une assurance ?
J'avais une assurance avec l'habitation, une option. Ouais.
Et parce que ça c'était volé chez toi.
Ça aurait été volé dans la rue, c'était pareil.
Non mais d'accord, mais il y avait une assurance qui couvrait le vol de vélo.
Mais comme j'ai retrouvé le vélo juste avant, l'assurance ne m'a rien remboursé sur ce vélo-là.
Mais c'est bien normal, fait, il n'y avait rien à te rembourser puisque tu ne l'avais pas payé.
Il y a quand même une justice quelque part. Hein.
Non, mais on n'a pas à lui rembourser les vélos qui ne payent pas.
Le mec.
Moi, j'aurais été l'assurance, j'aurais dit, vous avez gagné un vélo, vous l'avez dans le cul, bonne journée.
Oui, mais c'est un bien qu'on m'a subtilisé.
Ah tout à fait.
Bien sûr.
Le voleur sera châtié. Bon. Il aura dans le cul quand même.
Ah, mais ceux-là, ils n'étaient pas malins.
Donc, ça veut dire que quand on se fait voler son vélo, on peut quand même le retrouver, tout espoir n'est pas perdu.
Bon, tout espoir n'est pas perdu.
Pour le coup, là, ce qui a permis de le retrouver, c'est surtout que tu avais, toi, de ton côté, guetté les annonces.
Oui.
Et que ton vélo avait des caractéristiques particulières et qu'il était facile à revendre.
Oui.
Non, mais que c'est un vélo pliant, c'est facile à transporter.
Ouais.
Oui.
C'est pas un Bullitt.
Le Bullitt, par exemple.
Eh ben, ils l'ont laissé.
Le Bullitt et le Yuba, ils n'ont pas touché.
Ouais, mais c'est beaucoup moins
les vélos plus
facile
vieux,
à revendre.
C'est ça.
Ah, oui.
Les vélos plus anciens, pareil.
Oui.
Ouais. Non, mais oui, un pliant et un décathlon, ça se revend le lendemain.
C'est ça.
Tout à fait.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Donc,
des vélos de bourgeois.
ou des vélos anciens.
Ou des vélos anciens.
Ou des vélos de récup, qui ne ressemblent à rien.
Parce que nos deux motobécanes, ils n'ont pas bougé. Voilà. C'était mon petit point sur les vols de vélo, mon aventure et ce qu'il faut faire, dans quel ordre, quand ça nous arrive.
Bon, j'espère que ça vous arrivera pas quand même.
Ouais, on le souhaite à personne. Enfin, après, si vous voulez venir voler le vélo de Grincheux, moi je vous file l'adresse, c'est pas un problème. Mais
Quoi?
Non,
mais
non.
Ça va pas. Et ils sont déjà venus.
Ils sont déjà venus.
Ils ont
déjà
choisi ce qui était intéressant.
Donc, nous, on monte des plans, tout ça, pour... Mais ça marche pas. Tant pis. Merci Grincheux.
Je t'en prie.
On va se quitter là.
Tout le monde s'endort.
Tout le monde s'endort.
Ah. C'est faux.
C'est faux. J'ai entendu le blum, c'est sa tête sur la table. merci pour votre... j'allais dire confiance, mais c'est stupide. Merci de nous écouter.
Non, pas du tout. Votre fidélité.
Votre fidélité, exactement, malgré les âneries qu'on débite dans le poste. Vous pouvez nous retrouver tous et toutes sur Twitter... N'est-ce pas?
Oui.
T-O-8-T-E-U-R. Twitter. @Mogor, @Prokilus, @Grincheux.
Oui.
Et @CrazyWartog. Voilà. Vraiment, Twitter n'est pas du tout actif.
Et @Cyclocast.
Et surtout @Cyclocast, exactement. Oui. Et vous pouvez nous envoyer des mails cyclocast@cyclocast.fr.
Non, cast@cyclocast.fr,
pardon.
Ça se voit que tu t'envoies jamais de mails.
Mais grave.
Et on a toujours. Un répondeur.
Oui, on a toujours un répondeur vocal sur lequel vous pouvez insulter Grincheux.
Alors, en fait, le répondeur est sur le site web.
Oui, vous allez sur le site web cyclocast.fr. Vous avez une petite appli qui vous dit « Hey, veux-tu laisser un message d'amour ?» Et voilà, Et ça,
ça fonctionne aussi sur
un mobile. J'ai eu l'impression d'entendre Pacific Sound 3003. Eh, laisse un petit message, t'amour.
Ça fonctionne aussi sur mobile, ce qui est pratique puisque le micro est déjà intégré à votre téléphone mobile. Il faut un micro pour laisser un message audio.
Eh oui.
Eh oui, tout le monde n'a pas de micro sur son ordinateur. Et non.
Sinon, vous envoyez un mail.
Voilà. Exactement.
Et on est aussi sur Facebook.
Ouais.
Psychocast. Toujours.
Bon, ben moi je vais aller traverser la ville.
Eh ben, au revoir.
Au revoir à tous. À bientôt.
Au revoir. Salut.
Fais du vélo. Fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo. Fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo. Fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo. Fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Comme un poisson dans l'eau, fais du vélo.